pas de Gilto dans notre émission. Oh que non. Mais Mathias Turcotte, comment ça va, Matt?
Ça va très, très bien, toi, Jeff.
Ça va super bien. La pieuvre Turcotte, qu'on va l'appeler. Fait tout. Il nous colle une entrevue. Il nous sort des extraits. La pieuvre Turcotte.
Je vais prendre le compliment. Drôle de nouveau surnom, par contre.
Ouais, c'est ça. Je te le dirai pas trop souvent. On a Antonine Iacarini qui est là. Comment ça va, Anto?
Ça va. Moi, c'est quoi mon animal totem?
Ah, je sais pas. Ah, c'est quoi ton animal totem?
C'est glissant comme t'aurais fait bien attention.
Non, ben, tu sais, Anto, toi, t'es comme toujours posé. T'as les bons mots. T'sais, c'est quoi un animal qui est vraiment comme intelligent, sensé?
Un humain? ouais, on va penser à ça. Me reviens demain.
On pense à ça. Moi, ça serait quoi, mon animal?
Un Golden Retriever.
Un Golden Retriever? Comment ça?
Ben, t'es comme tout le temps content.
Attends, t'as-tu dit comment ça, Jeff? Comment ça?
Il est pas d'accord. Il a pas l'air satisfait de son totem.
Je suis full satisfait. Golden Retriever.
Toujours le sourire d'en face.
Hey, savez-vous quoi? Je vais faire quelque chose que quand je fais à radio, ma blonde haït, mais je vais le faire quand même, OK?
Vas-y.
Parce qu'hier, j'ai pas eu le temps, hier soir, j'ai pas eu le temps d'en parler à ma blonde, mais j'ai été approché par l'équipe de l'Université Laval pour les Jeux des communications.
Oui!
L'épreuve radio. Ils doivent faire un 30 minutes d'émission d'affaires publiques et ils m'ont demandé d'être leur coach.
C'est malade. Bravo.
Je vais être leur coach avec
ça, c'est
Matt Marcotte.
Moi, j'aime ça, faire des affaires avec des étudiants.
Ben
puis
oui.
Honnêtement, Jeux de la com, j'ai participé à quelques trucs. Pas pendant les Jeux de la com, mais participer à préparer des gens. Donc, donner des présentations sur
j'ai vraiment hâte.
Communication, politique efficace, des choses comme ça. Fait que tu vas bien t'amuser.
Ah oui, et là, je le fais avec Mathieu Marcotte de Weekend, que vous entendez également la fin de semaine à Boulevard. Fait que Matt va s'occuper de tout le format, le dynamisme, le kit. Puis moi, je m'occupe de la structure de l'émission.
Pourquoi ta blonde n'aime pas ça que tu fasses ça?
Parce qu'elle aime ça que je dise avant que je le dise.
Ah, tu l'as annoncé!
C'est ça. J'ai comme pas eu le temps hier soir, tiens, pardon, on a eu une grosse soirée. Fait que on dirait que par quatre fois, j'ai dit, chérie, faut que je te parle de ça.
Là,
parce que je savais que je serais trop énervé pour le dire.
Faites pas vos exercices d'agenda puis de logistique en ondes par onde interposées.
Non, non,
ça
non,
peut
non,
pas marcher de même.
Non, 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 je sais, c'est pour ça que j'ai un terrain glissant, mais je sais qu'à cette heure-là, elle est en train de s'entraîner, fait qu'elle écoute pas. Elle va peut-être réécouter l'émission tantôt, par exemple, fait que peut-être que je me ferai chicaner ce soir, mais comme je vais être au débat à Chambre des commerces, au moins ça va attendre.
Elle va avoir le temps de dépomper, c'est bon.
Comme si Val était tortionnaire à mort, hein, faut faire tout. Quelle incroyable.
Jeff, tu vas triper à le faire, puis pour avoir fait des jeux de la communication dans le passé, c'est toute une expérience, puis c'est des étudiants vraiment passionnés. Puis regarde, tu vois, cette année à l'université, cette fois-ci, étant donné que j'étudie en politique, je fais des jeux de la science politique.
Ah, c'est dommage cool.
Parce que c'est des expériences fantastiques, t'apprends tellement durant ces mois de travail-là, acharné. Puis l'expérience sur 4 jours, c'est indescriptible.
Là, je sais
comme
pas, je leur ai fait peur parce que, tu sais, ils m'ont fait la demande hier vers 4h, hier après-midi. J'ai tout de suite dit oui. Puis hier soir à 8h15, je leur envoyais le dossier que tu as fait sur les médias sociaux.
Oui.
Après ça, je leur envoyais la discussion que nous autres on a eue, nos plans de match respectifs.
Ils connaissaient pas ton intensité.
Après ça, je leur ai envoyé des plans de match que je faisais cet été parce que j'ai regardé cet été quand je commençais à animer. Je détaillais beaucoup plus mes choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On pourrait se rencontrer en personne. Fait que finalement, à un moment donné, ils répondaient au début d'un texto tout heureux. Hey, wow, on a donc bien un bon coach. Puis à la fin, j'avais plus de réponse. C'est comme si on fait oups. Fait que là, je leur ai dit désolé, guys, de vous avoir fait peur, mais inquiétez-vous pas, je serai pas trop intense.
Ah, écoute, c'est ça quand tu dis à un Golden Retriever qu'on s'en va au parc.
Hey, je leur ai dit, on est là pour gagner. L'année passée, médaille de bronze, Université Laval. Cette année, ça sera la médaille d'or. Rien d'autre que ça. Il faut viser haut dans la vie. Viser très, très, très haut. Parlant de viser haut, ben, y a deux gars qui étaient en studio avec nous ce matin, Stéphane Lachance et Claude Villeneuve. Deux politiciens municipaux qui essaient justement de se sortir de l'ombrage de Bruno Marchand et Sam Hamad pour réussir à quoi peut-être passer au deuxième rang. Et sait-on jamais passer au premier rang et dépasser le maire Marchand qui était en avance dans les derniers sondages? J'ai trouvé en premier lieu que c'était un débat très serein, basé sur les idées. Puis j'ai beaucoup aimé, contrairement au débat Hamad-Marchand. Je pense que l'exercice démocratique, je pense que les gens, puis textez-nous là, au 418-971-1011, je suis convaincu que les gens, ça textait ce matin, que ça allait apprécier, ont une meilleure connaissance de qui est Stéphane Lachance et qui est Claude Villeneuve. Puis Antonine, c'est ça que ça sert, un débat, ça sert à débattre de nos idées, ça sert pas à dire à l'autre, t'es pas bon, tu connais pas tes chiffres.
Ben écoute, tu connais mon opinion sur les débats, c'est pas censé être des attaques personnelles. C'est censé être pour mettre de l'avant tes idées, mais aussi critiquer les idées de l'adversaire. Oui. Faut pas s'entendre, oui, faut pas s'attendre à ce que ce soit le kumbaya. Ben écoute, oui, je suis d'accord avec.
On n'est pas à maternelle. Ouais,
on n'est pas à maternelle, puis c'est pas tout le monde gagne. Là. C'est des élections. Il y a quelqu'un qui va gagner, puis il y a quelqu'un qui va perdre.
La Québec, il y a 6 candidats. Fait que t'as pas le choix d'essayer de te démarquer un peu. T'sais.
Exactement. C'est correct, mais quand même, il faut réussir à travers la joute politique à placer des idées qui vont résonner chez les gens. Des fois, les gens, en fait, puis on est tous pareils, que ce soit dans le monde des communications, des médias ou de la politique, on oublie à qui on parle. Donc, quand tu te rappelles à qui tu parles, généralement, tu passes pas à côté de la cible. Puis je pense que les gens, ce qu'ils veulent entendre, c'est qu'est-ce que tu vas faire pour moi.
Exactement. Matt, comment t'as trouvé l'exercice ce matin?
Ben moi, comment que je résumerais ça? Après avoir écouté, je me suis posé la question qui a gagné, Stéphane Lachance, Claude Villeneuve, qui a fait le meilleur débat? Puis je suis arrivé à la conclusion, c'est ni un ni l'autre qui a gagné, c'est les électeurs de Québec. Parce que les deux étaient là pas pour planter l'autre, pour discuter, pour faire avancer leurs idées, puis pour défendre leurs idées. Ça a été un changement de ton par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière, que visiblement on avait un ton un peu plus agressif du côté d'Amad. On est sorti de là avec une analyse qui a gagné le débat parce que la question se posait. Là, je trouve qu'au contraire, on a eu les idéaux des deux parties. On n'a pas eu de dérapage. Bon, on a eu un petit le ton a monté un peu au moment où que Claude Villeneuve a parlé des fameuses taxes impayées de Stéphane Lachance. Ouais. Mais dans un ensemble, ce débat-là était un exercice extrêmement constructif.
Parlant des taxes impayées, on écoute justement une partie là, de cet échange-là entre Claude Villeneuve et Stéphane Lachance.
Moi, je vous parle de la gestion de l'argent du monde. C'est ça qui est important. Oui. C'est très sensible. Puis là, vous n'allez pas juste avoir une adjointe à la ville, vous allez avoir 7000 employés qui vont être sous votre responsabilité.
On va avoir des gens compétents aussi qui vont nous supporter à ce niveau-là. Donc, notre cadre financier.
Vous voulez congédier toute la fonction publique municipale de Québec?
Non, absolument pas. On va, dans les 100 premiers jours, on le dit depuis le début avec Respect Citoyen, on va rencontrer les gens qui sont en poste, on va s'assurer que les gens sont dans les bonnes chaises. On va s'assurer aussi que ces gens-là comprennent ce qu'on propose aux citoyens au niveau de notre proposition. Et puis, ces gens-là devront être dans la continuité. Si ces gens-là ne se sentent pas à l'aise dans cette continuité-là, bien, on va leur trouver autre chose à faire. Mais chose certaine, c'est fini le temps où on propose des choses en campagne électorale. Puis quand on arrive en poste, on fait tout le contraire. Puis c'est ce qu'on a vécu en 2021 avec l'administration Marchand. Alors, nous, on n'a pas l'intention de s'inscrire dans ça.
Reste 30 secondes.
Je suis désolé, M. Lachance, mais vous n'avez pas la crédibilité pour affirmer ça. C'est, à un moment donné, il faut être capable
Moi, j'ai
de
la crédibilité. Ça fait 42 ans que je suis en affaires. J'ai jamais fait de faillite. Puis pendant 4 ans, vous avez siégé avec David Weiser, qui est en faillite. Hein? Fait que c'est ça. C'est drôle qu'on sort ça.
Arrêtez de crier, M. Lachance.
Je ne crie pas du tout. C'est drôle qu'on sort ça la journée du débat. Mais
qu'est-ce que David Weiser vient faire là-dedans?
Ben, David Weiser était responsable de l'économie. Puis il était à l'économie.
Moi, je n'étais pas dans l'économie, M. Lachance. C'est mon tour de parole. Je pense que vous n'avez pas la crédibilité pour défendre ces choses-là. Je pense que dans notre gestion personnelle, la façon dont on se conduit, notre réputation, c'est le meilleur garant de la façon dont on va se conduire comme maire.
418-971-1021 pour réagir. Antonine, je veux t'entendre là-dessus parce que ce matin, c'est sorti. Stéphane Lachance n'avait pas payé ses taxes pour sa maison à Lévis. Il parle d'erreur de matricule, son adjointe administrative qui a mal fait le paiement. Il est arrivé justement avec des documents, il me les a remis ce matin. T'en penses quoi? Faut-tu s'attarder à ça ou non du côté de Stéphane Lachance qui prône la rigueur budgétaire?
Ouais, c'est toujours une faiblesse pour un candidat quand tu as eu une faillite ou quand tu as eu quelque chose d'irrégulier qui est public, etc. Ou quand tu as peut-être des fois fait quelque chose de discutable. Tu sais, par exemple, je pense à Montréal, à Soraya Martinez qui avait des enjeux avec des logements qu'elle loue, puis ça est sorti aussi dans les médias. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'avoir fait une erreur dans ta vie ou une faillite, ça ne te disqualifie pas de te présenter en politique, mais tu sais que ça va être une faiblesse et que tu vas être attaqué. Donc, c'est de bonne guerre de la part de Claude Villeneuve de l'attaquer là-dessus, parce qu'on questionne le jugement des gens, la compétence, leur éthique, etc., et c'est normal, mais honnêtement, là, gérer une ville ou un pays ou une province, c'est pas la même chose que de gérer une entreprise ou de gérer de l'immobilier. Puis c'est vrai qu'il y a une administration qui est beaucoup plus là, solide.
Exactement. Stéphane Lachance avait ceci à dire après le débat, justement, par rapport à ces attaques de Claude Villeneuve.
Bien, écoutez, je m'attendais à ce que ça... Bien, ce soir, en tout cas, je m'attends à ce que ça sorte, bien évidemment. Par contre, qu'on en fasse directement rapport dans le débat qu'on avait... J'ai trouvé ça un petit peu cheap shot, mais écoutez, c'est la politique. Alors, il y avait une brèche, il est rentré dedans, il l'a exploité. Moi, j'ai donné mes explications. Il y a eu une erreur, On a corrigé notre erreur, le solde est à zéro et puis on continue.
Je pense qu'il l'explique bien, Stéphane Lachance, puis il s'attendait à ce que ça sorte. Il s'attend à ce que ça sorte ce soir, évidemment, parce que c'est le débat à la Chambre de commerce. Alex qui écrit effectivement un bien meilleur débat. On connaît le programme des deux mieux que dans celui de Hamad Marchand. Propose deux autres débats. Marchand contre la chance, Hamad contre Villeneuve.
Hey, on va être dans le jus à boulevard avec les débats. Cool.
Claude qui marque très instructif, mais aucun n'avait de bilan à défendre. C'est vrai que ça change la teneur en termes de débat. Je suis très d'accord. Et puis, en voiture, on parle ici d'Éric Mercier qui est dans l'équipe de Respect Citoyen et que ça nuit à la crédibilité de M. Lachance. Ouais, en effet, Éric Mercier, c'est plus le plus populaire dans Charlebourg. Là. Je travaille avec beaucoup d'organismes communautaire là-bas, puis disons qu'il a perdu des plumes durant son dernier mandat. On ne le voyait pas beaucoup. Autre point de désaccord, évidemment, entre les deux, Stéphane Lachance et Claude Villeneuve. Un prône pas de tramway, pas de transport structurant, juste le RTC. L'autre prône le tramway. On écoute justement le débat entre les deux concurrents.
Oui. Actuellement, là, je veux dire, il y a une mauvaise gestion. On voit des autobus où on devrait avoir des articulés, puis on met des autobus conventionnels pour pacter les gens. Ça donne bonne presse, ça, de dire, regardez comment que les gens sont serrés, ils sont pas capables de fonctionner. Puis, par contre, le dimanche, on fait passer des articulés avec une seule personne à l'intérieur. Il y a un problème de gestion. Vous êtes d'accord avec moi qu'on a fini 9e sur 10 oui. des sociétés de transport? Il y a un problème au RTC. Comment pensez-vous la logique de confier un projet de 7, 8 ou 9 milliards à une organisation qui est déjà en crise? On doit commencer par régler le problème du RTC, puis de faire en sorte que ce service-là soit optimal avant de leur confier des tâches. Sinon, c'est illogique.
D'abord, on peut marcher puis mâcher de la gomme en même temps. On peut revoir la gestion du RTC, on peut travailler là-dessus, faire des changements dans la direction, couper dans le nombre de cadres, tout en avançant un projet qui est prêt.
Construire l'avion en vol, comme on dit.
Ben, en fait, non, le promoteur, c'est CDPQ Infra. Eux, ils sont capables de construire ça de leur côté. Pendant ce temps-là,
on va
faire
le
ménage du RTC.
C'est un gros succès avec
eux. Ils ont eu des très bons succès à Vancouver, à d'autres endroits où ils ont travaillé. Le REM, c'est un projet complètement
Vancouver,
différent.
Québec, c'est pas la même condition climatique.
Je trouve que Stéphane Lachance a été tantôt moins bon, tantôt bon dans cet extrait-là, puis je m'explique. Il a fait beaucoup de démagogie sur l'RTC. C'est pas vrai qu'on met les autobus 40 pieds à des places à prendre un articulé, puis c'est pas vrai qu'on fait rouler un articulé avec juste une personne à bord.
Non, mais c'est une idée qui est bien implantée dans la tête du monde,
exactement.
Les bus vides.
Oui, exactement. Puis ça existe, les bus vides, soit dit en passant. C'est les parcours, puis c'est comme ça le transport en commun. Là. Et le RTC essaye de plus en plus de mettre des autobus justement hybrides à 24 passagers sur ces parcours-là. Mais c'est des parcours, on n'a pas le choix d'aller chercher du monde chez eux parce qu'il y a des personnes aînées qui n'ont plus de moyens de transport, il y a des personnes défavorisées qui n'ont pas de voiture, il y a des enfants qui ont besoin d'aller à l'école,
puis
d'aller dans
leur loisir.
Puis il y a des
heures de pointe, c'est ça, puis il y a des contrats de travail avec des chauffeurs.
C'est ça, puis il y a des heures hors pointe. Donc ça existe, ces autobus vides. Dans la plupart des cas, il y a une raison. C'est sûr qu'au niveau du RTC, il y a de l'optimisation à faire parce qu'il y aurait des autobus vides qu'on pourrait retirer. Ceci dit, c'était pas la meilleure de Stéphane Lachance. Par contre, moi, je l'ai trouvé bon quand il a attaqué la caisse de dépôt et de placement, section infrastructure avec le REM, parce que c'est vrai que pour moi, ça reste un enjeu que ce soit eux qui s'occupent du tramway quand on voit ce qui se passe à Montréal avec le REM.
Oui, effectivement. Ça... Puis, tu sais, de Québec, qu'on n'utilise pas le REM, qu'est-ce qu'on reçoit de nouvelles du REM? Ben, c'est quand il ne marche pas. Hein.
Oui, c'est vrai, ça, par exemple. Tu marques un point.
Le REM, ça va finir par fonctionner. Puis c'est vrai qu'aussi que, pour vrai, si vous étiez à Montréal, moi je suis à Montréal souvent, là, le métro est beaucoup plus souvent arrêté que le REM. Ça fait pas les.
Non, ça fait pas manchette, c'est vrai. Ah, tu nous amènes un bon point,
bon,
j'aime ça.
Je te dis pas que c'est parfait, là, je veux pas trop me mettre en position de défendre. Mais cela dit, c'est vrai que c'est deux enjeux qui sont complètement différents. Et là-dessus, je vais donner le point à M. Villeneuve. On peut continuer d'avancer un projet qui est déjà prêt.
Ben oui.
Tu connais mon opinion là-dessus. Sérieux, il faut qu'on recommence à zéro.
Moi, non, moi aussi.
En attendant, pendant qu'on est dans la phase de construction, s'il y a de l'optimisation à faire du côté du RTC,
clairement.
Faisons-la.
Oui, et de toute façon, ça, c'est prévu. C'est ce qui tarde du côté du RTC là, à l'heure actuelle. Là, je trouve leur plan d'optimisation là, qui est... C'est latent, là. On est 9e sur 10, puis on s'est pas pris en main encore, là. Puis on était 9e sur 10 au mois de novembre, l'année passée. Fait que comment serait le temps?
Oui, puis de toute façon, même si on décide de pas faire de tramway, la Ville de Québec paierait plusieurs centaines de millions en termes de dédommagement pour le gouvernement du Québec, quand que, présentement, le coût total du projet que va être chargé à la Ville de Québec est plafonné à 750 millions. On sauverait environ, on sauverait total tout un 250-300 millions, mais on n'aurait pas de projet. Ça vaut-tu exactement vraiment la peine au final? Ouais. La question se pose quand même. Là.
Non, puis j'ai posé la question quelques fois, puis je la repose encore. 418-971-1021, est-ce que le tramway pour vous est un enjeu électoral? Je veux vous entendre à cet effet-là. Je te présente, Antonine, mon coup de cœur, Claude Villeneuve et sa vision sur 15 ans de la ville de Québec.
Dans 15 ans, je veux offrir à mes filles une ville qui va avoir réglé ses problèmes, qui va regarder en avant. Moi, depuis que je suis chef de l'opposition, je fais le même point de presse à tous les mois. À toutes les semaines, je me fais questionner sur le tramway, sur la mobilité, ces choses-là. Je veux qu'on mette ces sujets-là, qu'on les règle, qu'on les mette derrière nous, puis pas comme le promesse à ma mère qu'on parle encore du tramway en 2040. Je veux une ville qui va pouvoir rêver, par exemple, d'accueillir une exposition universelle comme des gens d'affaires le proposent à Québec. Moi, j'ai proposé l'idée d'Horizon 2035 en partenariat avec Wendake, une fête qui aurait l'ambition du 400e pour recommencer à avoir une ville festive, une ville engagée. On propose la création d'une cité des sports au parc Victoria pour attirer des concessions de soccer professionnels, féminins, masculins, bâtir un stationnement étagé justement pour desservir Saint-Roch, mais aussi le pôle d'échange du tramway, revoir notre entrée de ville au complet. Je veux que Québec, dans 15 ans, recommence à faire, en fait, bien avant dans 15 ans, recommence à faire l'envie des villes partout au Canada pour sa croissance, son dynamisme, pour le fait que c'est une ville tripante à habiter, pour le fait que c'est une ville accueillante, puis oui, qui est unie du centre à la banlieue.
J'aime beaucoup.
Bravo. Puis
j'aime l'ouverture, j'aime les artères commerciales, j'aime de voir grand avec des expositions, on attire le monde, des événements. J'adore.
Mon bravo, en fait, je le disais à toi, Jeff, parce
comment
que, tu sais, dans notre univers médiatique, on va toujours mettre la loupe sur le négatif.
Ouais.
On fait des petits clips de 10 secondes. On coupe beaucoup les porte-paroles, que ce soit en politique ou autre chose, à des petites clips. Je trouve, puis là, je fais de l'auto-flattage, là, vous m'excuserez le monde à la maison, mais
merci, c'est
parce que
gentil.
C'est important. Tu donnes la chance aux gens de finir leur pensée. On a entendu la vision de Claude Villeneuve du début à la fin. Parce que souvent, ce qu'on entend dans la population, c'est les politiciens nous font plus rêver, on est toujours dans le négatif, c'est les attaques personnelles, c'est la boîte, etc. Mais c'est pas vrai. Hein? Les candidats, souvent, apportent des idées, des visions, mais c'est pas toujours retenu par les médias. Il y en a des politiciens qui ont une vision à proposer, des propositions. C'est pas juste du négatif.
Ouais, ça, c'est pas toujours sexy. Avoir une vision à long terme. Et pourtant, c'est ce qu'on devrait demander à nos politiciens. On ne veut pas qu'ils gèrent pour leur mandat de 4 ans. On veut qu'ils regardent la ville dans 15-20 ans.
On veut savoir c'est quoi la vision en bout de ligne. Puis on n'arrête pas de dire à nos politiciens qu'ils pensent trop à court terme.
C'est ça.
Mais c'est notre responsabilité aussi comme citoyens de s'intéresser.
Exactement.
On se voit où dans 10 ans, là?
Et c'est pour ça que je tenais à partager cette vision de Claude Villeneuve-là. Et vois-tu, par texto, je m'enligne pour Claude Villeneuve. J'ai aimé son discours, sa vision. Fait que tu vois, Claude Villeneuve a gagné des points, justement, ce matin. Je termine avec Stéphane Lachance, parce qu'on en a parlé, Antonine, la semaine dernière, de son fameux 150 millions de compression. Comment qu'il va faire? Où il va aller le chercher? Et il y a un auditeur qui a posé la question. Ça, excellent flash, Yannick Marceau, disait, toi, Jeff, là, tu récoltes les questions des auditeurs, puis on les passe avec les candidats à la fin. On a choisi, justement, trois questions qui s'adressaient aux deux et une question à chacun. Et la question à chacun, c'était ça. C'était une auditrice qui disait, ouais, mais monsieur Lachance, vous allez faire comment pour prendre 150 millions dans les coffres de la ville et ne pas couper les services? Voici sa réponse.
Bon, bien, il n'y aura pas d'affectation de services. Puis tout à l'heure, M. Villeneuve a parlé de Chainsaw. Il n'y aura pas de Chainsaw qui va arriver le 3 novembre au matin à l'Hôtel de Ville de Québec. Ce qu'on fait tout simplement, le problème, c'est qu'actuellement, c'est pas qu'il rentre pas assez d'argent à la Ville de Québec, c'est qu'il en sort trop. Alors actuellement, Bruno Marchand est sur un cadre de 2,5% de dépenses par année. Nous, on ramène ça à 1,25. Donc ça, c'est la première des choses. On veut se priver en tant que tel, avec entre autres les différentes mesures, le stationnement, ces choses-là, d'environ 100 millions de dollars, mais on va compresser 150 millions, ce qui va faire que ça va nous donner une marge de manœuvre de 50 millions qu'on va appliquer sur la dette. Et nous, en tant que tel, ce qu'on vise, c'est que la diminution d'intérêt qu'on va payer en faisant des remboursements, comme Régis Labeaume le faisait d'ailleurs au début de son mandat, bien, ça va faire en sorte que ça va nous donner plus de marge de manœuvre pour offrir des meilleurs taux de taxes aux citoyens de Québec.
Malheureusement, puis Stéphane Lachance, c'est pas plus clair. T'sais, il va diminuer de 2,5 à 1,25, mais il y a de l'inflation. Il dit, je vais diminuer sur l'intérieur payant comptant, mais comment je vais faire pour avoir cet argent-là dans mes mains? Je vais compresser 100 millions, mais où? Dans ma salariale? Je te souhaite bonne chance. C'est pas plus clair après cet extrait-là, malheureusement. Puis c'est pas pour casser les œufs sur le dos de Stéphane Lachance, c'est juste que je le trouve pas clair dans sa proposition financière.
Ouais, puis objectivement, vite de même, avec les infos qu'il nous donne, ça balance pas.
Exactement.
Puis tu sais, en politique comme en publicité, quand on vous vend quelque chose qui semble trop beau pour être vrai, là,
Posez-vous des questions?
Ouais.
Ouais, non, c'est vrai. T'as raison, je trouve que.
T'sais, j'aimerais ça que ce soit vrai, que ça marche de même, là. Ouais. Puis qu'on coupe, qu'on soit plus efficace, puis qu'on fasse beaucoup plus avec moins. Je ne peux m'empêcher d'avoir certains doutes. Maintenant, tu sais, si il fait des cadres financiers éventuellement qui sont plus précis puis qui nous expliquent, je pense qu'il faut avoir l'ouverture d'esprit.
Clairement.
De l'écouter. On verra.
Clairement. Good. Une auditrice, un auditeur nous écrit « Oui, pour moi, le tramway est un enjeu. J'aimerais mieux optimiser le RTC, ajouter des bus et parcours. Quand tu as une panne, tu peux envoyer un autre bus. Tu ne coupes pas de voie aux automobilistes. Et qu'est-ce qui va arriver quand le tramway va être en panne ou avoir de la misère en hiver comme à Ottawa? On va être fourré. » Merci beaucoup pour ton point de vue. Moi, ce qui me sécurise un peu là-dedans, c'est qu'au niveau de Mobilité Infra-Québec, on est allé chercher René Amilcar, qui était la gestionnaire qui est arrivée à Ottawa quand le tramway était sa scrap.
Ouais.
Il y avait 121 recommandations. Elle les a mis en place en moins de 2 ans, puis le tramway Ottawa roule bien.
Mais c'est sûr que ce qui s'est passé à Ottawa, ça peut, disons, alimenter nos anxiétés par rapport à un tramway, parce que c'est pas ce qu'on appelle un grand succès. Mais si on a tiré les leçons de tout ça, ben on risque peut-être d'avoir un projet qui est encore meilleur. Là.
En plein ça. On passe au... Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonin Iaccarini. Ça, c'était le pré-caucus où on est revenu sur notre débat ce matin. Merci à Yannick Marceau d'avoir eu l'idée d'organiser le tout et l'animer de main. Continuez à réagir au 418-971-1021. Vous voyez, on adore aller prendre de vos commentaires. Hey, Antonine, ça va pas bien. On a des camions sur la route qui font des accidents à planche. Ça n'a pas de bon sens. On a suspendu 185 permis le 16 septembre dernier en Ontario, mais depuis ce temps-là, il n'y a pas d'autre action qui s'est faite. Puis ils continuent à avoir des accidents mortels. Ils continuent à avoir des chauffeurs qu'on appelle à rabais sur nos routes. Qu'est-ce que ça va prendre?
C'est un énorme dossier, cet enjeu des camionneurs qui ne sont pas formés, qui n'ont pas d'expérience, qui ont des comportements qui sont dangereux. On a vu une augmentation d'accidents graves. On s'entend qu'un accident avec un camion lourd, là, c'est rare que ce n'est pas grave.
C'est pas pardonnable. T'sais, on en a eu une... Où justement, Pascal avait fait un dossier, elle avait parlé à la survivante qui s'était faite pogner entre un camion et un autobus scolaire. Puis là, tu sais, je veux pas commencer à dire ça vient juste de l'Ontario pour te le quitter, mais le gars parlait pas français. Quand il a demandé qu'est-ce que tu faisais, où c'est que tu regardais, elle s'est même rendu compte qu'il était sur son cellulaire.
Ben c'est ça. Fait que c'est ça l'enjeu présent. Puis juste te dire, on dit ça vient de l'Ontario puis tout ça. Moi, je commande des paniers bio à chaque dimanche, OK?
Ouais.
Ça part de Montréal et ça s'en vient à Québec.
Québec.
Mes chauffeurs ne parlent pas un mot français, pas capable de dire bonjour.
Bon, fait que tu vois, merci d'amener cette autre vision-là.
Puis là, tu te dis, c'est pas grave, ils sont dans leur camion, ils ne parlent pas français. Oui, c'est grave parce que, premièrement, il faut lire les panneaux. Au Québec, sont une langue en français, les panneaux. Ça veut dire, qu'est-ce que tu as eu comme formation sur le contexte du Québec? Qu'est-ce que tu as comme compréhension aussi des us et coutumes sur la route? Parce que, oui, il y a le formel. Mais la conduite, il y a de l'informel. Tu sais, quand on change de juridiction et qu'on s'en va conduire à l'étranger, tu te rends compte que les habitudes ne sont pas les mêmes, mais il faut comme s'habituer. Mm-hmm. Donc, ça crée des enjeux. L'enjeu aussi se mélange avec le fait qu'on a retiré des contrôleurs routiers de nos routes en ce moment.
Oui.
Qu'on a décidé, en fait, il y a eu une décision du tribunal administratif du travail qui a décidé de confiner les contrôleurs routiers à des interventions dans des lieux fixes. Donc, ils n'interviennent plus de manière ad hoc là, sur nos routes. Et ça, c'est un risque supplémentaire. On a décidé d'y aller comme ça parce que nos contrôleurs routiers ne sont pas armés. Donc, ça peut poser des dangers.
C'est pour leur sécurité.
Pour leur sécurité. Moi, j'ai envie de vous dire... armons-les.
Exactement.
C'est comme des policiers, là, ces gens-là. Si c'est dangereux d'intervenir, ben logiquement, je veux dire, ou alors on transfère les responsabilités aux policiers, on donne plus d'effectifs. Mais là, on a vraiment un risque supplémentaire sur nos routes. Juste pour un petit peu résumer l'enjeu des chauffeurs, on parle d'entreprises qui embauchent des chauffeurs qui ne sont pas formés, qui sont souvent des travailleurs étrangers temporaires, qui peuvent payer pas très cher, par exemple. Bref, il y a tout un débat.
Mais l'exemple de l'Ontario sur Radio-Canada, on a fait un reportage. C'était beaucoup des jeunes de la communauté Sikh qui, justement, formation de 10 à 12 jours, puis avoir go, t'es sur la route avec le camion.
Non, c'est ça. Puis ces camions-là, je veux dire, on cohabite avec eux sur nos routes au quotidien. Les gens à la maison, vous le savez, là. Puis moi, depuis que j'entends ces histoires-là sur la route, puis j'ai vu l'accident qui s'est passé sur l'autoroute 30 à Montréal, il y a eu deux décès. Honnêtement, ça me crée une anxiété quand je passe sur la route.
Moi aussi.
T'sais, demain, il faut que je m'en aille à Laval. On revient, je vais revenir dans le noir sur l'autoroute à 22h. Je me dis, tu sais, ça arrive des fois, moi, des situations avec des camions. T'sais, des fois, il faut freiner brusquement, puis tu as un camion qui est derrière toi. Vous le savez, là, c'est un enjeu. Il faut que tu regardes dans ton rétroviseur, puis tu te dis, je vais-tu me faire rentrer dans le derrière? Mais si la personne est sur Netflix...
Vous oui, parce qu'il y a ça, là, on écoute du Netflix, on écoute du TikTok, on n'est pas du
fini,
tout concentré sur la route.
Tu fais écraser comme une crêpe.
Ah oui.
Et là, on est l'automne, les routes sont dégagées, il pleut même pas, ça fait un mois qu'il n'y a pas plu.
Imagine.
Et là, on voit une augmentation d'accidents, imaginez l'hiver prochain. Wow. Donc, c'est un enjeu qui est québécois, mais qui est aussi fédéral, parce qu'on parle de transport interprovincial. Mm-hmm. Comme on disait tantôt, il y a certains chauffeurs qui sont basés en Ontario, ils vont aux États-Unis aussi, ces chauffeurs-là. Donc, le fédéral doit faire quelque chose. Le Bloc québécois qui demande une enquête, honnêtement, ça presse. On a un gouvernement en ce moment fédéral qui est étrangement réactif, là, parce que d'habitude, au fédéral, ça prend 1000 ans avant qu'on aille un iota de réaction sur quoi que ce soit. Je m'attends à ce que le gouvernement acquiesce positivement à cette demande d'enquête et pas une enquête qui va s'étendre sur 6 mois, s'il vous plaît.
Non,
des vies qui sont en jeu.
Exactement, une enquête très rapidement. Et parlant de s'étendre sur des mois, écoute ce que David Gauthier, porte-parole de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec, avait à dire sur les négociations entre le gouvernement provincial et les contrôleurs routiers.
Ben effectivement, là, écoutez, là, il y a 27 dérogations là, qui ont sorti du jugement, que la juge a dit, ben pour vous régler les 27 dérogations, ça fait 7 mois, là, il y en a zéro de réglé. Donc, c'est sûr, c'est certain que demain matin, si on allait de l'avant avec l'arme de service, bon, on réglerait une majorité des dérogations, pas tous, mais il faudrait travailler avec ceux qui restent. Ça fait 7 mois qu'il y a une armée de fonctionnaires qui travaille à essayer de régler ça, puis il n'y a rien de réglé présentement.
Okay. Je suis pas un spécialiste, là, mais du jour au lendemain, on peut pas vous donner un gun sans que vous ayez une formation nécessaire.
Effectivement, là, vous avez parfaitement raison. Les contrôleurs sont formés 21 semaines à l'École nationale de police. Par contre, la partie armes à feu, la seule partie qu'on a, c'est si on trouve des armes à feu pour pouvoir faire les sécuriser. C'est la seule partie qu'on a présentement. Par contre, là, c'est une formation de 2 à 3 semaines. On ne pourra pas remettre tous les contrôleurs sur la route demain matin au jour 1. On annonce la nouvelle. Par contre, on va pouvoir commencer là, tranquillement à revenir sur les patrouilles une fois qu'il va y avoir des gens pour pouvoir avoir l'arme de service.
7 mois, c'est long. Bon, on me dit du côté du cabinet de Jonathan Julien, le nouveau ministre des Transports, qu'il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'il ne parle pas avec les contrôleurs routiers et qu'il n'essaie pas de régler la problématique. Est-ce qu'il y a eu laxisme de Geneviève Guilbeault avant? Peut-être. Mais chose certaine, je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi, le fameux « je vais faire un nouveau conseil des ministres le 30 juin » quand il a été fait au mois de septembre, là, ça étire des délais
c'est
comme ça.
C'est un exemple concret de ce que ça peut donner comme résultat. Mais juste sur le fond des choses sur les armes à feu, là. Tu peux pas d'un côté dire c'est trop dangereux d'intervenir, intervenez plus, puis dire ben on vous donnera pas d'armes.
C'est ça, à un moment donné.
C'est juste la pure logique là, à la fin de la journée. Fait qu'il faut que ça bouge rapidement. Puis effectivement, ça pourra pas le bout arme à feu pourra pas bouger en un mois.
Non.
Mais si on le fait pas tout de suite, ça sera pas dans 6 mois, ça va être dans 1 an et demi.
C'est ça.
Puis l'autre élément, c'est qu'il y a un bout qui appartient, qui a pas rapport avec les contrôleurs routiers, qui a rapport avec le fait qu'on laisse ces gens-là se promener sur les routes. Donc, comment on fait pour s'assurer que les entreprises n'embauchent pas des chauffeurs à rabais non formés? Ça, ça n'a pas rapport avec les contrôleurs routiers.
Non, si on est capable de le régler. Exact. Je vais reprendre l'exemple de Claude Villeneuve. On est capable de mâcher de la gomme en même temps. C'est deux dossiers qu'on est capable de régler.
On peut même mâcher de la gomme, écouter un podcast, puis regarder où est-ce qu'on va.
David qui nous écrit, c'est du laxisme depuis très longtemps. J'ai quitté le camionnage il y a 5 ans parce que j'étais plus capable. Il y a plus de 15-16 ans, j'étais dans une entreprise qui recevait des livraisons de personnes de l'Ontario. La moitié du temps, on devait reculer les camions pour eux parce qu'ils n'étaient pas assez bons. On les appelait les chauffeurs d'autoroute. Donc, tu vois, c'est pas un nouveau problème. Parlant de camionnage, Mathias, il y a un problème de circulation.
Oui, juste vous dire que présentement, sur Henri IV, direction sud, à hauteur de boulevard de chemin Sainte-Foy, on a un accident qui est présentement la voie de droite et la voie de gauche fermée. Donc, on a un ralentissement qui commence à se créer présentement. Le ralentissement qui remonte un peu à avant. Boulevard Charest. Si vous avez des informations, 418-971-1021.
Merci beaucoup, Mathias. Et continuez à nous texter au 418-971-1021. Antonine, je lève la tête, je regarde la TV. Ah! Regarde-moi donc ça. Mark est assis à côté de Donald. Là, Donald a dit, on va vous traiter de façon juste. Là, Donald dit, on est près d'une entente sur le Moyen-Orient. Mark est arrivé un peu moins flamboyant à Washington la première fois. Hein? C'est plus tough, là. Tarifs, on augmente les tarifs de 45 à 45%. % sur le bois d'œuvre au 14 octobre. La tarification, c'est poids lourd de 25 % le 1er novembre. Marc, il nous avait promis qu'avec son CV, il réglerait tout. Là. Ouf!
La queue entre les jambes, un peu.
Hein? Ouais, c'est ça. C'est toi qui le disais, j'osais pas.
Ben, écoute, oui, c'est correct. J'assume, j'assume l'image. Effectivement. Donc, est-ce que c'est correct de faire des rencontres à haut niveau entre un premier ministre et le président américain? Bien sûr. Est-ce qu'on a l'attente que Mark Carney allait tout régler pendant cette rencontre-là? Bien sûr que non. Mais c'est vrai qu'on est vraiment dans une position qui est difficile. On n'est pas face à un adversaire qui veut nous faire bien paraître ou qui veut nous donner des gains. On n'est pas dans une logique de gagnant-gagnant. Mais là, la pression politique augmente. Parce que c'est quoi la différence avec la dernière rencontre qu'on a eue le printemps passé? Ben, les oppositions étaient un peu en mode Mark Carney vient d'arriver.
Puis Poilievre n'avait même pas été élu dans son comté.
À l'époque aussi.
L'NPD venait de se scraper.
Ouais, ben, l'NPD, c'est encore de même. Là. Ça n'a pas changé. Mais du côté du Bloc québécois, par exemple, pendant la campagne électorale, le Bloc disait il n'y a pas rien que la crise commerciale dans la vie. On essaie de vous faire peur, on essaie d'éluder les autres enjeux. Puis finalement, François Blanchet, cet automne, il est bien là-dessus, là, la crise commerciale.
Oui, bien là, il s'est peut-être rendu compte qu'il a perdu 10 députés parce qu'il a pensé qu'il n'y avait pas juste la crise commerciale. Mais bon, ça,
c'est
une autre
bon
parenthèse.
Et Pierre Poilievre est maintenant de retour à la Chambre des communes. Donc, la pression augmente. Le gouvernement essaie de baisser les attentes. Mais c'est sûr qu'on a beau baisser les attentes, puis personne n'a l'impression que ça va se régler en deux minutes. On a zéro gain depuis des mois. Rien n'est réglé.
Et pourtant, le CV de Carney, l'économiste était censé régler ça. Puis autre chose qui était censé régler, c'était le budget puis le déficit. Mais là, pour régler ça, on va dire, ah, au niveau des dépenses gouvernementales, on est kiff-kiff avec l'argent qu'on reçoit. On est 100 milliards dans le trou parce que, sais-tu quoi, Antonine? On a fait des investissements.
Des investissements. Moi, je fais ça aussi à la maison avec mon chum. C'est pas une dépense? Ben, c'est un investissement,
ben moi, j'ai
ça?
Dit à Val, si on était Mark Carney, on serait vraiment riche parce que notre maison, on serait pas obligé de la payer. C'est un investissement.
Mais c'est un peu vrai, ça, pour la maison. Sauf que là, on est en train de nous dire que les petites caisses de son Bluetooth aussi, ça, c'est un investissement.
Ouais, ça, c'est vrai, t'as
parce
raison.
Parce qu'après ça, t'as la caisse Bluetooth. Après ça, les électroménagers, c'est un investissement, ça. Une bonne laveuse à 2000$, ça. Mm-hmm. Donc, quand t'aimes pas la somme puis les chiffres, t'as juste à changer ta manière de calculer, finalement. Fait qu'on change les règles comptables. Donc, à partir de maintenant, puis on le savait déjà, le ministre des Finances va présenter un budget qui fait la différence entre des dépenses et des investissements. Donc, ce qui rentre dans le déficit, on va évidemment changer. On avait déjà un indice de ça. Pendant la campagne électorale, le Parti libéral a déposé un cadre financier qui est un peu ton futur budget.
Oui.
Entre vous et moi, le cadre financier, ça n'a jamais rapport avec le budget, finalement. Là, c'est bien rare que tu aies une idée juste de ce qui va arriver, surtout dans un contexte d'instabilité économique comme on connaît maintenant. Mais il avait déjà annoncé qu'il allait commencer à présenter les choses différemment. Qu'est-ce que ça a comme impact? Ça fait en sorte qu'on ne peut pas comparer le budget de cet automne avec celui de l'an passé. Parce que ce n'est pas les mêmes règles comptables. Ce que ça va faire aussi, c'est qu'on nous a bombardé avec l'idée qu'on aurait un déficit de 100 milliards de dollars. Eh bien, probablement que le 4 novembre au soir, ça ne sera pas 100 milliards.
Non,
ça
va être 88.
Donc,
là,
c'est
on va
comment?
En avoir sauvé 12.
Hey, 88 milliards.
Ah, c'est rien.
Hey. Exactement.
Juste un déficit record. Hein?
Hey, bravo, Mark Carney.
Pour revenir sur la rencontre Trump-Carney, juste revenir un peu sur les points qui ont été discutés jusqu'à maintenant, parce que Trump a maintenant l'habitude d'accueillir les chefs d'État dans son salon devant tous les journalistes. Donc, le président Trump qui a affirmé que durant la réunion avec le premier ministre Carney, ça portera surtout sur le commerce, mais également sur la situation dans la bande de Gaza. Donc, on sait qu'ils vont parler de cette situation-là. On s'attendait que peut-être ce soit discuté, mais que ça sorte pas dans les médias, visiblement. Avec Donald Trump, tout sort dans les médias. Également, il a commenté sur les Canadiens qui boycottent les États-Unis, les produits américains, les voyages. Puis il a répondu avec un ton étonnamment aimable. Le président Trump qui a dit qu'il comprenait puis que présentement, il faisait face au même conflit du côté des Américains qui veulent pas acheter de voitures fabriquées au Canada. Puis il a même dit « c'est quelque chose que nous allons régler. Il y a beaucoup d'amour entre les deux pays ». Et dernièrement, le président Trump qui a assuré que le premier ministre Carney sortira très content de sa réunion à la Maison-Blanche. Il a dit « nous allons parler de choses sur lesquelles nous ne sommes pas nécessairement d'accord, mais il sortira très content d'ici ». M. Trump qui a également affirmé qu'ils allaient traiter du fameux dôme d'or dont il a déjà été question par le passé.
Oui, à combien de milliards on allait mettre là-dedans? Mais ça ne va pas nous coûter une scène si on devient le 51e État.
Mais là, il a dit, là, le Canada est un pays très compétitif. Les démocrates n'ont aucun leadership.
Ouais, ils mélangent tout. Là,
Donald est en train de se laisser aller sur tous les sujets.
Je sais même plus quoi dire.
Ah oui? Ah, ben, je tiens à dire, justement, quand tu dis « se laisse aller sur tous les sujets », j'ai ressorti un peu des citations positives puis qui avaient un peu de sens. Mais il a aussi dit que le déploiement de la garde nationale dans les différentes villes démocrates aidait le Canada. pour quelle raison, on ne sait pas.
Voilà.
Mais Donald Trump a également affirmé cela.
On adore notre Donald. Et là, vous comprendrez mon sarcasme. Simon qui écrit « Mark Carney rencontre toutes mes attentes envers lui, étant donné que je n'avais aucune attente. » Bon, c'est une vision de la chose, Simon. Guillaume qui dit « Ben, beau être économiste, Trump ne cherche pas à négocier. Il veut juste qu'on se plie à ses petites crises du bacon. En effet, c'est très dur de négocier avec Donald Trump. » Et il y a une question ici, puis je veux que tu y répondes, Antonine. C'est un auditeur ou une auditrice qui nous écrit « Ben ouais, mais Jeff, qui aurait réglé ça avec les États-Unis? »
C'est la question et c'est ce qui sauve Mark Carney.
Oui.
Parce que si, par exemple, on voyait en Pierre Poilievre quelqu'un de plus compétent pour le faire, Mark Carney, là, il serait vraiment dans la chenoute. Mais tout le monde se dit c'est un adversaire complètement qui sort de tous les cadres qu'on n'a jamais connus. Puis personne ne réussirait nécessairement à faire mieux. C'est ça qui sauve Mark Carney.
La seule affaire, puis là, je vais faire un parallèle avec ce qu'on a parlé du débat au niveau des candidats à la mairie puis des promesses de Stéphane Lachance. La seule affaire, c'est que Mark Carney a tellement élevé les attentes qu'on n'a pas le choix d'être déçu. Même si personne n'aurait fait mieux, lui, il les a tellement élevés qu'on dit, ouais, OK, mais il nous a promis ça, pourquoi qu'il ne nous le livre pas? Et c'est le même problème.
Il gagne sa campagne électorale, hein? C'est la dynamique politique qui a créé ça.
Bien, c'est ça. Alors, c'est pour ça que je ramène ça au municipal. Stéphane Lachance, ses promesses au niveau de coupure, au niveau de gel de taxes, ça peut être très intéressant pour un contribuable. Mais il va-tu être capable de délivrer rendu?
Puis, tu sais, on en parlait la semaine passée des attentes que Stéphane Lachance met à Québec. Puis, on se disait, est-ce que ça fait pas finalement augmenter le cynisme? Parce que des gens qui font comme enfin un politicien qui va faire ça, puis après ça, ben on sait bien, ils sont tous pareils.
En plein ça. Antonine, on termine. Je te fais écouter L'heure est grave de Ruba Gazal, mais on commentera pas tout de suite. On va aller à la pause, puis par la suite, on va en parler avec notre chroniqueur Rémi Villemur.
Ça te va?
Ça te convient? L'heure est grave, cher progressiste. Je pense qu'il faut prendre un petit moment de silence avant.
Y a-tu quelqu'un qui a un violon?
On écoute Ruba Gazal.
OK.
Cher progressiste du Québec, l'heure est grave. Nous vivons un virage du climat politique jamais vu au Québec. Les progressistes sont en train de se faire démoniser. On tente de nous faire porter la responsabilité de toutes les crises actuelles, alors que la gauche n'a jamais gouverné. Cette stratégie alimente une véritable chasse aux sorcières où les progressistes sont la première cible. Ça se manifeste de plusieurs façons. De la caricature de nos propositions en les déformant jusqu'à de l'intolérance décomplexée qui se répand en ligne. Ma collègue Christine Labrie a dû fermer sa page Facebook dépassée qu'elle était par une vague d'attaques haineuses et homophobes. Même des journalistes se voient forcés de retirer leurs publications envahies de commentaires racistes. Et pendant ce temps-là, certains chroniqueurs inventent des polémiques au lieu de s'attaquer aux vrais enjeux du Québec.
Sur ces belles paroles, Antonine, on va à la pause et on se garde en tête que la gauche n'a jamais gouverné.
Je vais profiter de la pause pour réfléchir à tout ça.
Juste vous parler qu'il y aurait, selon les dires de plusieurs auditeurs, un gros incendie sur la rue Jean-Marchand dans le parc industriel. Si vous avez des informations, 418-971-1021.
Ruba Gazal l'avait dit, l'heure est grave. Vous êtes à Boulevard 1021 à l'émission On en jase. Rémi Villemur s'installe avec nous par la suite. On va parler justement de cette heure grave de Ruba Gazal et on va revenir sur le projet de constitution du Québec. Simon Jolin Barrette, il met le caca entre le PQ et QS.
Un bon coup politique.
Et voilà. On en parle immédiatement après cette courte pause. Jusqu'à 4. Mais en qu'on jase, que vous allez voir qu'il y en a plein de choses qui se produisent aujourd'hui. Mais je commence par la météo. On est présentement à 24 degrés. Des averses prévues en fin de journée. 14 degrés demain, alternant soleil et nuages. 11 de grand soleil jeudi. 14 degrés ensoleillé vendredi. Mathias, il y avait des petits problèmes encore sur la circulation, notamment avec les incendies.
Oui, juste vous dire que présentement, Henri IV, direction sud, il y a un accident à hauteur de chemin Sainte-Foy, voie de droite et voie de gauche de bloqué. Donc, on a un ralentissement qui remonte jusqu'à rue Einstein présentement sur Henri IV. Également, on aurait un incendie sur Jean Marchand, rue Jean Marchand dans le secteur industriel à Québec. Un gros incendie qui aurait lieu, si vous avez des informations, 88-971-1021.
Daniel Moisan qui se retire de la politique, c'est un candidat pour Leadership Québec. Sam Hamad qui a mentionné, c'est avec une grande tristesse que je reçois la décision de Daniel Moisan de quitter la campagne. Le climat toxique qu'il décrit a eu raison de son engagement politique. Je vous souhaite de retrouver son quotidien avec sérénité. Merci pour tout, Daniel. Donc, Daniel Moisan qui quitte en raison du climat toxique sur les médias sociaux.
Oui, c'était le représentant pour Leadership Québec dans Montcalm, Saint-Sacrement. Ce qu'il a dit, en gros, c'est le climat toxique, l'ambiance malsaine et malveillante. Aussi, il y a eu une diffusion d'infomènes dans lequel on aurait ri de lui, qui ne lui aurait pas plu. Il a aussi assisté à de la violence physique lors de poses de panneaux au cours de la campagne qu'il n'a pas aimé. De son côté, on a dit qu'une part du blâme revenait à Bruno Marchand qui aurait alimenté la haine durant ses 4 années de mandat. Et on a tenu à préciser que son soutien, il a tenu à réaffirmer son soutien à l'équipe Sam Hamad.
J'aime ça, on s'est brossé la tête en même temps, Antonine. Bruno Marchand qui suscite la haine, c'est peut-être les gens qui sont un petit peu trop haineux. Et ça, tiens, je vais passer la poc à Rémi Villemur qui est à Montréal. Rémi, tu peux être en désaccord avec le fait qu'un maire veut faire le tramway, mais là, de là à dire que tu vas tenir des propos violents et haineux, à un moment donné, il y a une différence à faire entre « je suis pas d'accord avec son idée » puis « de la façon que j'agis ». Es-tu d'accord avec moi, Antonine?
Mais, je regrette, là, mais quand on est maire de Québec, quand on est maire de Montréal, quand on est député de Québec solidaire dans Sherbrooke, comme Christine Labrie, je dis pas qu'on a accepté en signant quelque part dans un contrat, dans les conditions à la toute fin, qu'on allait recevoir des insultes comme ça. Je ne dis pas ça, mais je pense qu'il faut accepter un peu la réalité. La réalité, c'est pas nous qui... Hein, c'est pas une personne qui peut la changer vraiment. Il y a une réalité mondiale. En ce moment, les gens sont en bourgeois le vert. Et de fermer ces réseaux sociaux, de dire « je vais poursuivre des gens qui ont des commentaires haineux », c'est ouvrir la porte à quelque chose que je trouve un peu louche, un peu dangereux. Les gens sont en maudit, OK, d'accord. La loi prévoit des sanctions lorsque vous menacez quelqu'un. Mais là, j'entendais M. Marchand dire la calomnie. Mais la calomnie, c'est le mensonge. Et parfois, on n'a pas la même vérité que quelqu'un, OK? L'eau est mouillée, d'accord. Là, dire que l'eau n'est pas mouillée, c'est un mensonge. Mais ne pas être d'accord avec quelqu'un, est-ce que c'est de la calomnie? Trouver que quelqu'un est pas bon, est-ce que c'est de la calomnie? J'essaie juste de...
Ouais, par contre, moi, ce que je voulais dire, puis je précise ma pensée, c'est que Daniel Moisan dit, par ses décisions, Bruno Marchand attise la haine et la colère, et là, ça se répartit sur l'ensemble de la politique. Mais normalement, tu peux débattre d'une idée sans être en colère.
Tout à fait, tout à fait. Non, ça, c'est évidemment exagéré. Bruno Marchand a une vision du monde. Il n'attise pas la colère parce qu'il défend sa vision du monde. Il a été élu, les gens ont voté pour lui. Donc, effectivement, ce commentaire-là est de trop.
De toute façon, on dirait que des fois, quand on reçoit des commentaires qu'on n'aime pas, que le climat n'est pas bon, ben c'est comme si on essayait de se trouver un coupable. Je pense que c'est ça, là, la réaction de M. Moisan, c'est qu'il dit « Ah, ben, ça doit être la faute à Bruno Marchand, finalement. » Et je vais profiter aussi du moment où je me retire de la course pour y lancer une flèche qui me semble complètement inutile, finalement. Puis je ne suis pas sûre que c'est si bon pour le climat non plus, la discussion.
Revenons à nos moutons et à Ruba Gazal. L'heure est grave et je vous lis un texto de Stéphane qui dit « Cette porte-parole de Québec solidaire n'a plus de crédibilité. Elle dénonce le climat toxique, mais elle a même décrit le PQ de parti de droite et les conservateurs d'extrême droite lors de la dernière élection partielle dans Arthabasca. Elle contribue directement à nourrir le climat toxique et fait partie du problème. » Honnêtement, c'est une opinion de Stéphane qui est très intéressante. Rémi, Antonine, vous en pensez quoi de Ruba Gazal et de « L'heure est grave » que les progressistes sont maintenant mis à l'abattoir de la place publique?
Bien, les 48 dernières heures ont été assez révélatrices, je pense, du type de leadership qui est capable d'exprimer Ruba Gazal. On va prendre la vidéo pour commencer, mais je vais vous emmener ailleurs après parce qu'elle a écrit un tweet ce matin. Mm-hmm. Et ça aussi, je trouve que c'est assez révélateur. Mais prenons la vidéo. Le ton, c'est celui d'une victime. Donc, Québec solidaire a vraiment besoin de se défaire de la victimisation parce que ça, d'un point de vue strictement objectif, j'ai envie de dire d'un point de vue scientifique, ça n'inspire pas le pouvoir. Okay? Et ça n'inspire pas la confiance de la population, un parti qui fait son pain et son beurre sur la victimisation constamment. Hein? Quand on choisit notre premier ministre, quand on choisit le ouais. chef d'un parti, quand on choisit quelqu'un en qui on a confiance, on veut quelqu'un qui est capable de dévier de ça. Quelqu'un qui est capable de nommer le réel.
Éric Duhaime est un bel exemple à ça. Il a perdu dans Arthabasca en se positionnant en victime de « Ah, il y en a 500 000 qui ont voté pour moi, mais je parle à l'Assemblée nationale. »
Je ne sais pas si c'est pour ça qu'il a perdu. Il a perdu parce qu'il n'a pas gagné Victoriaville. Puis dans le roman d'Arthabasca, il y avait deux électorats très distincts. Mais tu sais, je pense que tu ne peux pas constamment
on n'a pas besoin
à
d'une
la carte de la victimisation. Donc, quand tu t'installes à une grande table brune comme ça, avec un drapeau du Québec, puis avec une caméra qui te fixe, puis tu as une posture sobre, on appelle ça une adresse à la nation. OK? Donc, si tu profites de ce contexte-là, de cet environnement-là qui est lourd de sens sur le plan symbolique pour prendre une posture qui est tout sauf celle d'une personne qui est capable d'assumer le pouvoir, tu rates ton coup complètement.
Puis pire ça, que c'est... ça, Rémi, c'est que moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'elle fait une adresse à la nation, puis elle parle d'elle, elle parle de QS. Bonjour, je veux vous parler de QS. Parce que quand elle dit les progressistes, en passant, pour elle, sa définition de progressiste, je crois, c'est des gens qui votent pour Québec solidaire
c'est
et qui sont chez
bon
Québec
point.
Solidaire. Puis je pense qu'elle mélange aussi progressiste et woke. Mais ça, c'est un autre débat. Puis elle utilise sa tribune pour dire QS ceci, QS cela, les progressistes. Là, c'est un synonyme là, pour elle. Elle n'a pas parlé des gens. Elle a parlé de son parti qui est à 6 % dans les sondages. Et je trouvais tellement que ça ratait la cible. Puis je vais te dire, Rémi, moi, je vais te donner mon impression de cette vidéo-là. Sur le coup, je pensais que c'était une parodie parce que QS fait juste des niaiseries sur Instagram à peu près. Là. C'est toujours des concepts là, qu'on voit sur TikTok, des trends de TikTok, puis on s'amuse. Donc, je pensais que ça allait être une parodie. Puis là, je me rends compte que non, c'est une adresse à la nation dans laquelle elle dit on accuse les progressistes de tous les maux alors qu'on n'a jamais été au pouvoir. La gauche n'a jamais été au pouvoir. Fait que la gauche, pour elle, évidemment, c'est juste QS. Et elle se vante finalement de jamais avoir réussi, que son parti n'est pas capable de gagner le pouvoir. Et j'ai tellement trouvé ça bizarre comme vidéo, pour être honnête, là.
Ben, écoute, tu lis dans mes pensées parce que c'est là que je m'en allais. Elle parle aux progressistes alors qu'elle devrait parler aux Québécois. Le parti est à 6 % dans les sondages, puis, tu sais, oui, il est à 6 % parce que certains progressistes qui étaient à QS sont allés au Parti québécois ou au Parti libéral, mais ultimement, Québec solidaire se présente aux élections générales au Québec, veut gagner le pouvoir au Québec, donc tu ne peux pas profiter, tu ne peux pas t'offrir cet environnement-là, ce décor-là qui nous rappelle l'adresse à la nation pour parler à tes membres. Il y a quelque chose de complètement raté dans l'exécution. Mais ce n'est pas étonnant, parce que Québec solidaire prétend avoir certains projets, prendre le pouvoir, gouverner le Québec, mais en réalité, c'est un groupe qui n'aurait peut-être même pas dû devenir un parti politique. C'est un groupe de personnes, des militants. Et puis c'est correct, militants, moi, en passant, il n'y a pas de mépris dans ce mot-là pour moi. Ce sont des gens qui ont des idées, mais ils n'en arrivent pas à accepter la nécessité et même l'importance du compromis. Donc, aucun compromis n'est possible. Et Ruba Gazal, il faut voir, là, parce que Gabriel Nadeau-Dubois qui s'en va, Gabriel Nadeau-Dubois, c'était celui qui avait en tête peut-être l'idée de professionnaliser ce parti-là.
Vraiment.
De accepter.
Mais il s'est fait battre par les extrémistes dans ce parti-là, c'est ce qui est arrivé.
Oui, et Ruba Gazal, pour moi, elle est dans la même catégorie qu'une Catherine Dorion, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des idées qu'elle n'acceptera jamais de modifier un peu pour prendre le pouvoir, pour se rapprocher du pouvoir. Ce sont des idéologues, ce ne sont pas des politiciens. Après, il y a une autre sortie, si vous voulez qu'on
en parle. Oui, c'est ça. Parle-moi de sa sortie sur X, justement. J'arrivais là, Rémi.
Donc, je vous lis, c'est très court. Elle écrit au sujet du projet de constitution là, qui va être déposé par la CAQ dans quelques heures. « Ni une constitution province écrite par Simon-Jolin Barrette, ni un référendum perdant de Paul Saint-Pierre Plamondon. » Plus que jamais, le Québec a besoin d'une constitution d'un Québec indépendant écrite par et pour le peuple. C'est ce que QS propose depuis sa fondation. Donc là, notons quand même dans l'expression « référendum perdant » une inspiration tout à fait libre du discours d'Éric Duhaime et de la CAQ. Hein, ça, j'ai jamais entendu quelqu'un à Québec solidaire utiliser l'expression référendum perdant. Là. Hein, c'est juste à la CAQ puis au Parti conservateur qu'on utilise ça. Donc là, on envoie une flèche au Parti québécois. Hein, quand on dit aux péquistes, va bien falloir un jour bâtir un camp du oui, va bien falloir un jour vous asseoir avec Québec solidaire, bien là, Rubia Gazal, elle envoie, sans peut-être en être consciente, le signal qu'elle ne voudra jamais s'asseoir avec le Parti québécois. Elle n'est même pas d'accord avec la stratégie du Parti québécois, ouais, hein, pour atteindre l'indépendance. Puis il y a autre chose aussi là-dedans. Je vous ai parlé de Christine Labrie, dont la page Facebook est fermée, dont les réseaux sociaux sont fermés. Finalement, Christine Labrie, elle a reçu des messages qu'elle trouvait désagréables et elle a dit « je ne veux plus du tout entrer en dialogue avec la population québécoise. Si vous voulez parler avec moi, vous allez venir cogner à mon bureau de circonscription, mais sinon, ça se limite à ça, le rapport que j'entretiens avec la population. » Québec solidaire se targue d'être le parti le plus proche du peuple. Hein, on ne veut pas un référendum, on veut une constitution écrite par le peuple.
Et là, on vient fermer la porte au peuple.
On vient fermer la... Le tweet de Rubia Gazal, là, et là, vous avez des gens qui vont me dire que c'est exagérément technique comme analyse, il est fermé à la... On peut pas commenter en dessous du tweet de Rubia Gazal. C'est souvent ça qui arrive sur Twitter. Mm-hmm. On ne peut pas commenter là-dessus. Donc, vous êtes si proche du peuple que vos députés ferment leurs réseaux sociaux et que vos publications sur les réseaux sociaux empêchent le dialogue. Mais il y a toute une hypocrisie là-dedans.
Non, je suis tellement d'accord avec toi, Rémi. Je reste sur le dossier de la Constitution, puis je passe la POC à Antonine, justement, avant de t'entendre, Rémi. Méchant bon coup politique, ça, de Simon-Jolin Barrette, parce que là, on lit le tweet de Rubia Gazal, un référendum perdant. Sol Zanetti sur nos ondes disait « CQS, on gouverne, on s'en va pour un référendum, puis anyway, on va être dans le camp du oui. » La chicane est pognée entre les deux, puis pendant ce temps-là, la CAQ se frotte les mains et dit « Ah, on parle pas de nous! »
Simon-Jolin Barrette doit être en train de manger son pop-corn. Parce que quand j'ai vu Simon-Jolin Barrette sortir sur la Constitution, je me suis dit « Ça arrive comme 9 mois trop tard, cette affaire-là, ouais, parce que là, la CAQ est aussi, ça va pas très bien. »
C'est pas trop tard aussi, comme tout ce qui s'est fait à la CAQ.
Ouais, exact, mais en même temps, ils peuvent pas tout faire dans la même année, c'est bien correct. Puis moi, je fais partie des gens très minoritaires de cette société qui s'intéresse au projet de constitution du
ben,
Québec.
Je lève la main moi aussi.
Bravo. Puis probablement que Rémi, on va voir si Rémi, ça l'intéresse aussi.
Pas mal,
mais
certain.
Cela dit, je me disais, ça arrive un peu tard, ça va passer dans le beurre, les gens s'inquiètent pour leur portefeuille, mais finalement, c'est un bon coup politique parce que le QS et le PQ se chicanent sur la question de la constitution. Donc, c'est très drôle, j'imagine, pour Simon-Jolin Barrette.
Rémi, t'en penses quoi?
Je pense aussi que c'est un bon coup de la CAQ. Parce que je parlais hier avec Pascal Paradis, puis le député de Jean Talon dans la région de Québec, puis lui, il disait « Non, on fait pas de constitution si on n'est pas un pays. Une constitution, ça passe par le pays. » Le piège dans lequel le Parti québécois ne doit pas tomber, c'est celui dans lequel ils sont tombés quand ils se sont opposés à la loi 96. Rappelez-vous, on s'oppose à une loi qui est une bonne loi pour réformer la loi 101 parce qu'elle va pas assez loin. Ça envoie un mauvais signal, ça. Il faut être bon joueur. Est-ce que vous êtes nationaliste? Est-ce que vous êtes pour un nationalisme identitaire? Est-ce que vous êtes pour la Constitution? Vous pouvez trouver que le projet n'est pas parfait, mais d'annoncer que vous allez voter contre parce que c'est fait dans une province, moi, je ne suis pas à l'aise avec cette posture-là. Je pense qu'on peut perdre potentiellement des appuis au Parti québécois, des appuis qui sont mous. Hein? Vous vous rappelez, au Parti québécois, il y a beaucoup de gens qui étaient à la CAQ depuis 10 ans, là, puis qui ont traversé au Parti québécois parce qu'on trouve que on aime mieux le vent de fraîcheur qu'apporte Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais là, quand on voit le parti s'opposer à des bonnes idées, imparfaites, présentées trop tard, faites sans consultation, d'accord. Mais s'opposer à des bonnes idées, c'est se peinturer dans le coin comme un mauvais joueur.
Antonine, je te vois réagir, puis moi, je suis peut-être d'accord comme Rémi. On va conclure là-dessus parce qu'on a Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil, en ligne. J'aime beaucoup faire des entrevues avec les femmes en politique, donc ça va être très, très, très intéressant. Restez avec nous. Mais je suis d'accord avec Rémi. À un moment donné, le nationaliste doit être bipartisan, doit être transpartisan, je cherchais le bon terme, doit pas nécessairement être approprié à la CAQ, au PQ, à QS.
Mais les gens entendent ça, je pense. Une fois de temps en temps qu'on dise on est en accord, on l'aurait pas fait exactement comme ça, mais on peut pas être contre un projet de constitution. Mais c'est surtout que très politiquement, là, je trouve que le PQ est tombé dans le panneau.
Ah, clairement!
Quand il y a eu le discours d'ouverture du PM, la réaction du PQ, c'était... Je ne vais pas commenter chaque affaire qu'il y a dans ce discours-là, parce que ce gouvernement-là est fini, il est fichu. Il n'y a plus de légitimité, puis tout ce qu'ils sont en train de dire, ils ne le feront pas de toute façon. Donc, ils n'étaient pas sur le fond des choses. Là, on a décidé, on rentre là-dedans, on donne beaucoup d'oxygène à cette affaire-là de Simon-Jolin Barrette. J'ai l'impression que la pire chose que le PQ aurait pu faire, c'est un peu un haussement d'épaule en disant... T'sais, dans le fond, qu'ils essayent d'aller chercher des points politiques, mais les Québécois le savent que s'ils sont nationalistes, c'est pas à la CAQ que ça se passe. Mmh. C'est quelque chose comme ça.
Oui, oui, exactement. Donc, Rémi Villemur, un très grand merci une fois de plus pour ta participation à l'émission. On se reparle le jeudi parce que tu es avec nous à chaque mardi et jeudi. À chaque fois, tu apportes des points de vue très, très, très intéressants. Merci, mon ami.
Bye-bye à vous deux.
Hey, salut, Antonine Iaccarini. Merci, je t'avais enlevé ton casque d'écoute. Merci beaucoup pour ta participation à l'émission aujourd'hui. À demain. Et on s'en va de ce pas rejoindre une personne que de Québec, j'ai beaucoup d'admiration, une femme en politique qui se débat justement pour qu'il y ait plus de femmes en politique. Et j'ai parlé de Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, de la ville de Longueuil. Madame Fournier, comment allez-vous?
Ça va très bien, merci. Débat super intéressant sur le sujet de la Constitution. Moi, je me permets de dire que j'appuie totalement l'initiative de Simon-Jolin Barrette. Puis d'ailleurs, j'avais déposé une motion lorsque j'étais députée en 2019 qui allait exactement dans le même sens. Donc, il y a des gens que ça intéresse là, à aller relire le journal des débats de l'époque. Je pense qu'on est encore là-dedans.
C'est excellent. Est-ce que vous avez pensé à faire un retour en politique provinciale? T'sais, je sais que les élections provinciales sont seulement dans un an, mais avez-vous pensé de dire... Hey, sais-tu quoi? Moi, je ne ferai plus la mairesse de Longueuil. Je vais retourner en politique provinciale parce que vous êtes issu du Parti québécois et le Parti québécois est très haut dans les sondages.
Oui, mais non. Dans le sens que je suis très encore en paix avec la décision que j'ai prise à l'époque de devenir députée indépendante puis par la suite de faire le saut sur la scène politique municipale. Je me sens vraiment sur mon X comme mairesse de Longueuil. Ça ne veut pas dire que je m'intéresse pas aux enjeux qui ont cours à l'Assemblée nationale du Québec. C'est sûr que je suis seule avec beaucoup d'intérêt et d'attention. Mais ça demeure que non, je sens que je suis bien à ma place en politique municipale. Puis c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de me représenter à nouveau cette élection-ci.
Magnifique. On parlait des médias sociaux, justement, de l'ouverture des politiciens face aux médias sociaux. Vous avez fait une annonce sur les médias sociaux complètement capotée il y a de ça deux semaines quand vous avez dit « Hey, moi, je vais être mairesse, mais mairesse en écrivant le mot « maire », en annonçant que vous étiez enceinte. Comment vous est venue l'idée? Parce que moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Wow, c'est du génie. »
Ben merci, mais c'est un flash qui m'est venu il y a quelques semaines déjà. Je trouvais que ça faisait un bon jeu de mots. Là. Je sais que sur le coup, c'est pas tout le monde qui l'a compris, mais je pense que là, ça a été assez clair rapidement. Donc, merci à celles et ceux qui ont réussi à le déchiffrer là, pour les personnes qui ont pris un petit peu plus de temps à comprendre. C'est bien correct. Mais non, c'est vraiment, j'ai eu ce petit flash-là cet été. Là, quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis dit que ça pouvait être une drôle de façon de l'annoncer, là, sympathique dans le cadre de la campagne. Puis en fait, c'est juste la veille même que j'ai pensé à faire ça avec une pancarte électorale parce qu'on venait de procéder à notre opération affichage dans la ville. Donc, je trouvais que le timing était bon. Puis je cherchais une façon là, d'utiliser le mot « mairesse », le petit jeu de mots que j'avais concocté. Donc, j'ai encore une fois là, eu cette idée-là un petit peu à la dernière minute. Donc, j'ai fait mon petit montage puis je l'ai annoncé le dimanche 21 septembre.
Et comment ça se passe, campagne électorale, maternité? Est-ce que l'énergie est au rendez-vous malgré tout?
Oui, heureusement que je pars avec un très haut niveau d'énergie. mais je suis chanceuse aussi, là, dans le sens que moi, je sais pas si c'est l'adrénaline de mon rythme de vie, de la campagne ou quoi que ce soit, mais j'ai pas ressenti là, de fatigue particulière dans les dernières semaines. Donc non, je me compte quand même parmi les privilégiés. J'ai une super belle grossesse jusqu'à maintenant. Là, je touche du bois, mais ça va bien. Je suis maintenant dans mon deuxième trimestre, donc... J'imagine que ça va se poursuivre ainsi, je l'espère en tout cas.
À Québec, présentement, on voit une campagne électorale qu'on peut dire qu'il y a quand même un climat tendu. Un candidat vient de se retirer du côté de l'équipe Samamad. Hier, plusieurs dossiers dans le Journal de Québec qui sortaient sur la violence sur les réseaux sociaux envers les différents candidats en place. Est-ce que vous sentez, vous aussi, qu'il y a peut-être un climat tendu dans votre coin de la violence sur les réseaux sociaux ou c'est pas nécessairement un phénomène que vous sentez au sein de votre campagne jusqu'à maintenant?
Mais heureusement, du côté de Longueuil, je veux dire, je pense qu'il y a quand même un certain consensus là, qui se dégage. Évidemment, on verra le 2 novembre prochain, mais la satisfaction citoyenne est élevée, là, du moins si je me fie à tout le travail de terrain, puis j'en ai fait pas mal dans les derniers mois. Ceci dit, en ce qui a trait à la haine en ligne, tu sais, je partage les préoccupations du maire de Québec, Bruno Marchand, des autres élus qui ont pris la parole ces derniers jours. Moi, cette question-là, j'en parle dans l'espace public depuis à peu près 2020, donc au moins 5 ans. Je pense que la pandémie a exacerbé un phénomène qu'on connaissait déjà, là, mais qui était la polarisation sociale qui est particulièrement marquée en ligne. Cette haine-là, elle est de plus en plus décomplexée. Malheureusement, il y a très peu de contrôle de la part des plateformes. C'est quand même quelque chose qui est préoccupant, bien que je pense qu'il faille quand même remettre en perspective que ça concerne une très petite minorité qui est, cela dit, très bruyante. Mais la vaste majorité des gens sont très gentils et bienveillants, même sur les réseaux sociaux. Mais c'est certain que cette haine-là, ça mine. Ça peut miner le moral, ça peut miner le climat politique. Je pense qu'il y a des débordements qui sont pas acceptables dans une société démocratique comme la nôtre. Puis moi, en tout cas, personnellement, j'ai jamais hésité à dénoncer aux autorités compétentes là, lorsque ça franchit les bornes. Il y a vraiment des commentaires qui peuvent être du registre du code criminel, là, quand on parle de harcèlement, d'intimidation, de menaces direct. Donc, je pense que c'est important aussi de pas laisser passer ce genre de comportement-là. Mais pour tout ce qui est plus, la haine un peu normalisée, tu sais, qui est des attaques personnelles très, très acerbes, où on franchit pas la ligne, je pense que c'est là que ça devient préoccupant. Puis, j'entendais Valérie Plante hier en parler aussi dans le cadre d'une entrevue qu'elle a accordée, là, à Lambert Drainville là, qui commente l'actualité politique.
Oui, qui est un chroniqueur sur Nos Ondes à chaque mercredi et vendredi dans l'émission dans laquelle vous participez.
Il faisait une entrevue avec Valérie Plante. Puis, moi, j'ai eu beaucoup d'empathie ces dernières années envers Valérie parce que c'est vrai qu'elle semblait être une espèce de paratonnerre, puis on lui attribuait un peu tous les maux du monde. Donc, je pense qu'il faut simplement. Faut prendre soin de notre climat social, faut prendre soin de notre cohésion sociale qui fait, je pense, la force du Québec. Il faut surtout faire vraiment attention à ce qu'on écrit là derrière un écran. Là, on ne dira jamais assez. Mais la sensibilisation, ça passe par l'éducation, la sensibilisation. Puis juste, c'est pas une question d'âge. Là, souvent, on remarque là, c'est des profils des fois de gens plus âgés aussi. Tu sais, je sais pas si les gens réalisent toujours à quel point leurs commentaires sont publics. C'est un phénomène qui gagne à être documenté, mais en tout cas aussi pour lequel les plateformes numériques devraient avoir plus de responsabilités, à mon sens, mais ils s'en sortent souvent en toute impunité.
Oui, vous avez raison. Les plateformes numériques devraient prendre leurs responsabilités là-dedans et faire en sorte que, justement, des comptes anonymes comme ça n'existent plus. Je fais beaucoup d'entrevues avec les femmes en politique. Je fais des podcasts également. Bon, j'ai parlé avec une de vos anciennes collègues à l'Assemblée nationale, Joëlle Boutin, qui s'est retirée aussi de l'Assemblée nationale du côté de la CAQ. Il y a des femmes comme Joëlle Boutin qui disent « Hey, les mesures sociaux, ça me dérange pas, je joue avec ça. » Il y a d'autres femmes comme exemple Alicia Despins, ici comme conseillère municipale à Québec, j'ai trouvé ça vraiment dur avoir à gérer cette haine-là. Est-ce que ça rebute les femmes en politique, justement, ce climat-là de bagarre qu'il peut y avoir autant dans l'arène politique qu'au niveau des médias sociaux?
Ça peut rebuter les femmes, ça peut rebuter les hommes également. La différence, c'est que il y a des études qui documentent le fait que la haine envers les femmes, elle est beaucoup plus marquée dans les sphères numériques. Elle va toucher à l'apparence, à la vie personnelle, à la sexualité notamment. Donc c'est des attaques un peu différentes de ce que peuvent vivre les hommes qui sont aussi l'objet là, parfois d'attaques assez acerbes sur les réseaux sociaux. Donc oui, je suis consciente, puis c'est malheureux parce que c'est sûr. Puis c'est pour ça que je dis que c'est inacceptable dans une société démocratique comme la nôtre, parce que ça fait en sorte que les femmes extrêmement compétentes qui choisissent, par exemple, de pas se représenter pour un deuxième mandat, ou encore simplement qui font le choix de ne pas se présenter en politique, même si c'est un intérêt de leur part pour cette raison-là. Après, c'est une question de personnalité. Tu sais, moi, je suis un peu comme Joëlle Boutin. Tu sais, je prends pas le chapeau lorsque je sens pas qu'il me fait. Là, donc, je suis assez peut-être. J'ai une espèce de carapace développée à travers les années, mais je suis consciente quand même de la difficulté que ça peut représenter, puis que on est toutes différentes, puis avant tout on est des êtres humains, puis c'est normal que ça nous affecte. On peut pas blâmer une femme ou un homme d'être affecté quotidiennement par les commentaires qu'il reçoit. Donc, oui, je suis préoccupée par la vitalité démocratique. Si cette haine-là prend une place telle qu'elle pose une barrière à l'entrée en politique.
Oui, en effet. Vous êtes une femme en politique, vous êtes la mairesse de Longueuil, vous avez une grande popularité. Qu'est-ce que vous avez à dire à des femmes qui nous écouteraient et qui diraient « Je suis pas sûre de sauter en politique. » Pourquoi elles devraient sauter en politique?
Parce que la politique, on parle souvent de son côté négatif, mais très peu du beau qu'on peut faire. Et je peux vous assurer qu'il y en a du beau. Il y a un côté extrêmement lumineux à la politique parce que c'est encore, de nos jours, le plus grand vecteur de transformation sociale de nos communautés, de nos sociétés. On peut faire la différence de plusieurs façons autour de nous, mais en politique, on prend quand même des décisions importantes, majeures, qui ont un effet sur un très grand nombre de personnes qui vont façonner nos villes ou notre Québec, notre pays, peu importe à quel palier on se présente. Puis cette voix-là, la voix des femmes, qui sont pas une minorité, on est quand même la moitié de la population, doit absolument être entendue pour qu'on prenne les meilleures décisions, celles qui seront représentatives de notre population. Donc moi, je dis aux femmes, faites-vous confiance. Foncez, quand on se lance en politique, on part tous sur le même pied d'égalité, là, peu importe l'expérience passée. Moi, je vous garantis que si vous êtes prête à mettre du cœur, de l'énergie, si vous aimez les gens, ben les gens vont vous le rendre, puis vous allez arriver réellement à faire votre marque.
Catherine Fournier, merci infiniment pour le temps que vous avez pris avec nous aujourd'hui. C'est pas mêlant, si jamais vous partez un parti politique à Québec parce que vous déménagez avec votre belle famille, j'embarque. Je suis avec vous.
C'est gentil, merci.
Non, merci, merci honnêtement de faire rayonner les femmes comme ça en politique et merci de nous avoir accordé ce temps-là et d'être une aussi bonne mairesse pour Longueuil. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent certainement s'inspirer de votre parcours et présentement là, de vos décisions que vous prenez là-bas.
Ah, c'est vraiment gentil, merci beaucoup.
Voyez-vous, on a même une auditrice qui nous écrit, Tania, future première ministre, s'il vous plaît, quelle femme et politicienne incroyable.
Ah, c'est gentil. Merci, Tania.
Vous avez gagné des appuis même à Québec.
Ah, c'est gentil. Merci. Je vous souhaite une excellente journée.
Ça fait plaisir. Merci, Mme Fournier. Au revoir.
Merci, c'était, merci, au revoir.
C'était Catherine Fournier, mairesse de Longueuil. Vraiment, Mathias, c'est un modèle incroyable pour les jeunes femmes qui veulent faire de la politique. Maggie Gagné nous l'avait mentionné comme modèle, justement, la candidate dans le district Val-Bélair pour l'équipe Leadership Québec.
Oui, bien, c'est toujours inspirant des femmes qui se présentent en politique, qui se présentent pour des bonnes raisons, des femmes articulées, des femmes qui se présentent fortes, j'aime ça dire comme ça, qui ont des idées puis qui osent pas attendre derrière de... qui porte vers l'avant, vraiment. C'est beau à voir. Puis Maggie Gagné, j'en doute pas qu'un jour, éventuellement, pourra être un exemple également pour les jeunes femmes en politique. Là. Fait que non, c'est toujours beau à voir parce que il manque de femmes en politique, dans le milieu politique, il manque de femmes pour représenter cette branche-là de la population. Fait que c'est beau à voir que ça se développe de plus en plus au Québec, le milieu des femmes en politique.
Clairement, on vous gâte pas juste une fois, mais deux fois dans l'émission On en jase ce midi. On commence avec la première fois parce que BLVD 102.1 va célébrer ses 10 ans. En 2015, Leclerc Communication lançait une nouvelle radio dans le marché 100% conçue à Québec par et pour les gens de Québec. Et le 22 octobre des 17h, ne manquez pas l'événement des 10 ans de boulevard au Malcommode, lancement de la bière La Gravelle, émission spéciale en direct et l'intronisation au Radio Hall of Fame du duo Denis et Véro qui soulignent leurs 20 ans de carrière ensemble. Wow! Musique live avec Big Muff et un paquet de surprises. Nous avons un accès VIP double à faire tirer donnant accès au cocktail dînatoire ainsi que deux consommations par personne. Vous nous textez au 418-971-1021 en écrivant « On en jase », hein? On prend le titre de cette émission comme mot de passe pour pouvoir gagner. Venez passer une soirée mémorable avec toute l'équipe de Boulevard. C'est ouvert à tous le 22 octobre des 17h au Malcommode Promenade Beauport, 3333 rue du Carrefour à Québec. Alors textez-nous au 418-971-1021 « On en jase » pour pouvoir gagner votre prix. On fait une courte pause et par la suite, on passe avec Daniel Moisan, ex-candidat dans Montcalm-Saint-Sacrement pour Leadership Québec. Il a décidé de se retirer il a décidé de retirer sa candidature aujourd'hui. Il est tanné de la violence sur les médias sociaux. Il a même parlé de violence physique à son endroit. C'est une entrevue exclusive à Boulevard 102.1. On vous parle de tout ceci après la courte pause à l'émission On en jase.
Jusqu'à 14h, on en jase.
Vous venez d'entendre notre excellente programmation et la meilleure façon de l'écouter, c'est l'application Boulevard. Boulevard 101 sur App Store, Google Play Store. N'oubliez pas, sur les haut-parleurs intelligents, vous dites BLVD. Écoutez BLVD. Twitch.tv/BLVD/FM pour venir voir notre belle face en studio. Et vous pouvez également nous écouter sur la web radio au BLVD.fm. C'est là qu'on retrouve également nos meilleurs moments et les émissions dans son entièreté. Félicitations à Émilie Bertrand-Charrette. Tu es la gagnante. Tu vas venir nous voir le 22 octobre prochain pour les 10 ans de Boulevard et les 20 ans du duo Denis Gravel, Véro Bergeron. Mathias, avant de passer à Daniel Moisan, il y a encore des problèmes dans la circulation.
Oui, juste vous dire qu'en cas de direction sud, l'accident qu'il y avait à hauteur de chemin Sainte-Foy, présentement, la voie de gauche est réouverte, la voie de droite toujours bloquée, mais malgré le fait que la voie de droite est bloquée, ça circule bien pour l'instant. 40 direction est, présentement, il y a un ralentissement entre Pierre Bertrand et Robert Bourassa. Également, l'incendie que je vous parlais tout à l'heure, c'est un incendie qui a lieu au 7200 rue Armeau-Viau. Si vous avez des informations, 88-971-1021.
Il était candidat pour Leadership Québec dans Montcalm, le Saint-Sacrement. Il a pris la décision en fin de matinée de se retirer en raison d'un climat toxique et d'une ambiance malsaine et malveillante qui règne à tous les niveaux de la campagne électorale. On a le plaisir de recevoir avec nous Daniel Moisan. Monsieur Moisan, comment allez-vous?
Ça va très bien vous-même.
Ça va super bien. Monsieur Moisan, vous avez décidé de quitter pour un climat toxique, ambiance malsaine. Que s'est-il passé?
Ben écoutez, mon Dieu, c'est... Vous savez, moi, je suis un artiste. Hein? Puis, les artistes ont des idéaux. On arrive toujours, on avance toujours, nous autres, la garde baissée, en se disant que tout le monde est pour la vertu, puis les bonnes intentions, puis la bienveillance, puis tout ça. Finalement, on s'implique au niveau municipal. Nos idées font un peu de chemin, puis de la minute qu'ils font du chemin pour la peine, bien là, la contre-machine se met en marche. Et quand elle est biaisée, quand elle est partisane...
Quand vous parlez de la contre-machine, voulez-vous parler des médias de Québécois?
Je parle d'un ensemble de facteurs. La réflexion s'est amorcée quand notre candidate, Lydie Pincemain, a quitté pour des raisons de santé. Mm-hmm.
Puis là, on a fait un reportage sur ses problèmes financiers.
Ah, j'ai trouvé ça épouvantable. Tu sais, je veux dire, elle était plus là, elle était plus dans le décor, elle était plus dans le portrait. Elle avait besoin de se recentrer. Elle était déjà extrêmement triste de plus pouvoir continuer. Mmh. Puis évidemment, quelqu'un qui avait l'état de santé qu'elle avait, c'est évident que ça joue sur les finances. Puis je veux dire, il y a pas d'analyse, il y a pas de mise en contexte, juste parce que son nom est à côté de Leadership Québec. Ça fait une victime facile. Abattons-la, finissons-la, autrement dit.
OK. Donc, vous trouvez vraiment que Leadership Québec est victime là, du mauvais traitement des journalistes? J'ai parlé des médias de Québécois. Je sais que ça m'amène sur nos ondes. C'est déjà plein de Radio-Canada. Donc, vous ciblez là, justement certains médias.
Ben, vous voyez, exemple, moi, quand on m'a présenté comme candidat, ben, Radio-Canada est venu couvrir, puis... À un moment donné, j'ai expliqué aux journalistes qui était mon plan là, de redirection de la piste cyclable. Puis ils revenaient tout le temps en disant « Fait que vous scrapez la piste. » J'étais là « Non, on ne scrape pas la piste cyclable. » Puis là, à un moment donné, j'ai été obligé de dire « Écoutez, monsieur, si demain matin, vous annoncez que vous perdez votre job et vous demandez pourquoi et qu'on vous réponde parce qu'il y a une piste cyclable, vous allez peut-être essayer de trouver des solutions. » En tout cas, le journaliste a fini en disant « On a compris, monsieur Moisan. » Puis finalement, le soir, il n'y a jamais été aucunement question de mon annonce. Il n'y a jamais existé. Sa maman parlait de la piste cyclable, puis moi, la plante verte à côté. Et pourtant, il me présentait. Fait que, tu sais, je disais, on ne rend pas service à l'information, on ne rend pas service aux citoyens, on ne rend pas service à la démocratie. Puis jeudi, ben, j'ai eu mon baptême d'infoman.
Avec Jean-René Dufort. Qu'est-ce qu'on a fait avec vous à Infoman?
Ben, en fait, c'est ça qui est drôle, parce que on a fait un segment Leadership Québec où est-ce qu'on a essayé de nous faire part. En tout cas, c'était pas très flatteur. Il y avait Mme Vicky qui son fameux salut qui n'en était pas un.
Ouais.
Ensuite, Napoléon Roux. Ensuite, on s'est moqué d'Hugo Langlois, comme si se reprendre après avoir perdu une élection, c'était loser, au contraire.
Ouais, alors qu'il y en a plusieurs qui l'ont fait, là.
Bon, se reprendre, c'est winner, tu sais, c'est tout. Moi, je trouve, j'ai beaucoup d'admiration pour Hugo, comme pour toute l'équipe. Et là, il arrive à moi, et là, il dit que je suis Daniel Moisan, qu'on connaît aussi sous le nom de Mosquito B, qui aime chanter que le Canadien est poche.
OK. Là, chantez-vous ça, vous chantez que le Canadien est poche?
Il y a trois ans, Tom Lapointe, le défunt Tom Lapointe, journaliste sportif, avec qui je collabore sur son podcast qui s'appelle Show Tom, me fait une commande pour laquelle il me paye pour écrire un texte sur la musique du blues du businessman parce que le Canadien est en léthargie et il me demande, parce que je suis un musicien aussi, je suis un publicitaire, c'est une commande, comprenez? Sur le YouTube en question, même s'il est sur ma chaîne, parce que Tom avait besoin qu'on l'entrepose sur une chaîne sur YouTube, ça dit le titre de la chanson est « Show Tom ». C'est juste dans les crédits, c'est écrit « texte » au pluriel, Daniel Moisan, mais... Une vidéo, c'est un gars qui a un sac d'épicerie sur la tête, quand je l'ai du Canadien. Tu sais, je veux dire.
Un classique, là, quand une équipe d'hockey va mal, là, on se met un sac de papier sur la tête. Là. J'ai vu ça au défunt Colisée de Québec, parce que les Nordiques, on a passé des années dans le cave. Mais moi, je veux juste dire, M. Moisan, je suis très d'accord avec vous. Là, si vous étiez encore candidat à l'élection, je pense que j'essaierais de truquer mon adresse pour être dans mon camp Saint-Sacrement et voter pour vous. J'haïs le Canadien.
Non, mais écoutez, c'est ce qui est drôle, c'est que le petit vidéoclip, c'était une capsule, hein, je me demande si c'était une minute, et ça a été filmé justement dans le quartier Saint-Sacrement, mais mon ami Guy, je l'ai appelé, j'ai dit « Hey Guy, t'as passé un infoman? » Ouais, mais tu sais, j'avais un sac de papier sur la tête. Mais tout ça pour dire que dans le clip, c'est aucunement mentionné même que c'est moi qui chante.
Ouais.
Moi qui chante, mais c'est pas mentionné. T'sais. C'est pas une toune de Dan Moisan. C'est pas une toune. Malheureusement, je joue pas chez vous, mais je joue à plein d'autres radios à Québec. Mais dans le fond, c'est quoi? C'est se creuser la tête pour me faire passer pour un hater, pour dire que j'aime ça. T'sais, vraiment, ça fait trois ans. J'aimais pas ça il y a trois ans. J'aime pas ça, puis j'aimerais pas ça. Qui es-tu pour penser à ma place, Jean-René? T'sais? Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, quand tu te fais faire un job de même pour finalement te faire passer pour un coucou, on prend 24 ans de carrière en musique pour se faire résumer comme ça. C'est comme si tu disais, c'est qui Patti Galant là, qui a chanté Sugar Daddy, son hit dans les années 70? Puis je te disais, Patti Galant, c'est celle qui chante sa publicité Tide. Parce qu'elle a chanté sur beaucoup de singles publicitaires. Tu comprends? C'est comme si on la résumait comme ça. Là, tu dis, OK.
Non, je comprends.
C'est de l'intimidation d'État. Puis c'est moi en plus qui paye pour me faire intimider, c'est la société d'État, et puis de me faire diffamer surtout. Puis là, je fais, tu sais, c'est pas une gravité internationale, mais en même temps, tu dis, OK, s'ils sont capables de faire ça,
Jusqu'où ils peuvent aller. Là. Ben, puis, moi j'aimerais ça vous amener sur une des citations que vous avez dit. Vous êtes sorti en disant Bruno Marchand est en partie responsable de ce climat ayant polarisé tout le monde depuis 4 ans. Il n'a fait que diviser et insulter les citoyens qui ne partageaient pas ses idéologies. Donc, en partie, vous rejetez une partie du blâme à Bruno Marchand pour la haine présentement qu'il y a en lien avec la campagne électorale, de ce que je comprends.
Bien, c'est-à-dire que, écoutez, quand à peu près chaque débat ou litige ou contentieux à Ville de Québec se termine toujours avec des bons citoyens, des mauvais citoyens, on n'a qu'à penser à l'Académie Saint-Louis, par exemple, hein, c'est 160 personnes qu'il faut détester parce qu'ils ne veulent pas nous laisser jouer 4 games de football quand la réalité... c'est qu'il avait accepté les games de football, mais il n'acceptait pas que le terrain puisse faire ce qu'ils veulent 159 jours par année. Ce que n'importe qui aurait dit, hey, wow!
Donc, pour vous, on aurait dû respecter le référendum, la décision du référendum?
Non, ben, c'est-à-dire que la copropriété était pour les matchs de football. Ils n'ont jamais été contre ça, mais c'est parce qu'une fois qu'ils ont dit oui, on a dit non, à ce temps, c'est plus ça qu'on veut. À ce temps, on veut le bar ouvert, comme tous les autres terrains de sport. Fait que la copropriété a fait, hey, wow! Évidemment, on n'en parle pas de ça. Il a même fallu que la copropriété publie ça dans la rubrique opinion.
Mais vous, le bruit vous dérange quand il y a des événements sportifs?
Pas du tout, aucunement. Sauf que quand un terrain de football est à 3 mètres d'une copropriété, puis que ce terrain-là a été construit de façon illégale, sans permis,
ouais,
à un moment donné, on est plus...
Bon, on n'est pas sur la même longueur d'onde là-dessus, mais je reviens à Bruno Marchand, justement. Ouais, ouais, moi, là, ouais, j'aime vraiment pas ça qu'on dise. Les gens sont haineux, puis les gens font des pauses de colère parce que Bruno Marchand prend des décisions. Je pense que les gens ont juste à pas être en colère puis pas être haineux.
Ouais, quand vous regardez les panneaux d'autobus, là, la campagne qui roule ces temps-ci, la ville de Québec, où on se fait traiter de colons, quand vous regardez la campagne de pub là, pour sauver l'eau, puis c'est un homme de 40 ans et plus qui a l'air d'un imbécile et qu'on fait un portrait d'imbécile. Quand on est toujours en train d'antagoniser les uns contre les autres, moi, je voulais dévier un parcours de piste cyclable sur 300 mètres.
Mm-hmm.
Je ne peux pas vous imaginer ce que j'ai reçu.
C'est à quel endroit vous vouliez le dévier exactement?
C'était à Saint-Sacrement. C'était pour donner de l'air un peu aux commerçants. Il y a 72 places de stationnement qui ont été...
Sur le chemin Sainte-Foy, justement?
Oui, c'est ça. Puis c'était mon fer de lance pour ma campagne. Mais je dis, écoutez, les cyclistes, puis c'est une love, puis tout ça. Moi-même, je suis un cycliste, là. Fait que je suis rien contre les cyclistes. Mais hey, je me suis fait... J'ai aucune idée. Tu veux détruire la planète.
Je comprends. Dans l'article du Journal de Québec, on parle aussi de violence physique à votre endroit. De quelle façon?
Pas à mon endroit du tout. Ça, c'est absolument pas ça. C'est une violence physique de laquelle j'ai été témoin pendant qu'on installait pancarte.
OK. Puis comment ça s'est passé? C'est quoi cette violence physique-là?
Ben, en fait, c'était deux gars d'un parti qui installaient des pancartes. Mm-hmm. Et il y a quelqu'un, il y a un citoyen qui a été leur demander: expliquez-moi votre programme. Puis il y en a un qui n'a pas fait son affaire, que le passant ne soit pas d'accord. Mais... Et là, il a garroché son échelle.
OK.
Comme en direction. C'était vraiment...
Puis c'était quel parti politique, ça?
Oh, vous ne le direz pas.
Vous ne le direz pas? Dites-nous-le, ça nous intéresse. Ça intéresse
ça vous intéresse.
Ben, ça intéresse surtout nos auditeurs.
Après ça, Stéphane Lachance va dire que je suis un ci et un ça. Je vous l'ai dit le nom, là.
OK, parfait.
Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai traversé la rue, puis là, je leur ai dit, écoutez, comme dans Guerre des Tchiques, je leur ai dit, la politique, c'est pas une raison de se faire mal. Quand vous l'en dites, calmez-vous.
Ben oui, calmez-vous, exactement. Vous avez bien fait de jouer au médiateur, félicitations.
C'est ça, ça prend pas. Tu sais, parce qu'à un moment donné, ça devient complètement dingue. Mais à quelque part, tu sais, exemple, on a un maire qui a décidé de résolument prendre pour les vélos en disant les chars, arrangez-vous. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe dans la tête d'un cycliste? Il a tous les droits.
Ouais, et là, ça crée des confrontations avec les voitures, puis après ça, on fait des campagnes de publicité pour traiter le monde de colons. Je comprends la suite de vos idées. Hey, je termine juste là-dessus. Vous n'avez pas l'impression, par contre, de laisser Sam Ahmad complètement dans le trouble, vous qui défendiez ses idées?
Ben, je vous le dis, en terminant, on a eu une assemblée partisane la semaine passée, et j'ai rencontré une femme très impliquée, Hélène, qui était dans notre quartier Saint-Sacrement.
Ouais.
Et puis, on s'est donné la collade. Le lendemain, elle est morte, subitement.
OK.
Et puis, je me suis dit, Dan, si c'était la dernière journée sur la Terre aujourd'hui, préfères-tu la passer à te défendre, à craindre, à t'ostiner, à te justifier, à te faire intimider, à te faire diffamer, à te faire écœurer, ou tu vas être avec ta femme, ta famille, ta mère, le monde que t'aimes, puis créer de la musique, écrire tes bouquins, retourne à ce qui était bien le fun, l'essentiel, le bonheur. Alors, le choix n'a pas été dur à faire.
Non, je comprends très bien, puis je vous souhaite mes sympathies, M. Moisan, honnêtement.
Merci beaucoup.
C'est très triste, l'événement que vous nous racontez. Je vous souhaite bonne continuité, justement, dans votre carrière artistique, M. Moisan. Je vous remercie pour votre disponibilité de derniers instants, puis je vous souhaite paix et bonheur dans votre cœur.
À vous également.
Excellent. Bonjour. Merci beaucoup. Daniel Moisan, ancien candidat dans Montcalm, Saint-Sacrement pour Leadership Québec, qui a décidé de se retirer en raison de la violence et des propos diffamatoires. Franchement, bon, ben, au moins, on a su c'était quel parti politique qui était fauché pendant la fosse des pancartes électorales.
Mettons que ça vient concorder avec d'autres points qui sont sorti sur la haine au sein de ce parti-là.
Oui.
Mais moi, je le dénonce depuis hier. Je pense que tout le monde de censé dénonce que la haine à ce point-là, surtout violemment, n'a pas sa place d'être. Par contre, bon, faut quand même le dire, quand tu te lances en politique, que ce soit en politique municipale, que ce soit provinciale, fédérale, peu importe le palier de politique que tu choisis, faut que tu sois prêt à faire face à la tempête aussi, parce que c'en est une tempête politique.
Oui.
Là, Infoman qui rit de quelqu'un,
ça
fait partie de la game. Ça fait partie de la game.
Non, mais en effet, et ça, Infoman le fait toujours pour chaque campagne électorale municipale où on trouve justement le candidat sur ses médias sociaux qui fait de quoi de bizarre. T'as raison, ça fait partie de la gang. Bon, est-ce qu'Infoman devrait le faire? Moi, je suis toujours pour qu'on fasse un débat plus d'idées que de parures. Mettez l'émission Infoman en même temps des parodies. Donc,
c'est
faut qu'on comprenne où est-ce qu'on s'en va.
Puis,
exactement.
Aussi, Jeff, oui, mais est-ce qu'Infoman devrait le faire? Je veux dire, la façon qu'Infoman le fait, il intéresse des personnes qui auraient probablement été jamais intéressées
bon
à la politique,
ça.
À l'actualité,
c'est un excellent
par
point de
ses
vue.
Parodies. Il y a beaucoup de personnes qui écoutent Infoman puis qui sont intéressées à l'actualité, qui s'informent, entre guillemets, grâce à Infoman. Donc, moi, je veux dire, dans notre société, je trouve ça complètement correct, je trouve ça OK, qu'on caricature certaines personnalité politique.
T'as raison. Il y a Jeff, chauffeur d'autobus, qui nous écrit « C'est pas de la faute à Bruno Marchand, la haine et la violence sur les médias sociaux. La pandémie, le monde est pas mal au bout de leur chaîne depuis la pandémie. » Ouais, en effet, Jeff, ça a changé beaucoup la pandémie sur notre contact humain. Je suis d'accord avec toi, puis ça nous rend plus froid. Il y a plusieurs auditeurs, auditrices qui nous écrivent « Ouais, M. Moisan n'avait pas la couenne assez dure pour faire de la politique. Tu viens d'en parler, Mathias, puis je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pas facile faire de la politique. » Puis là, je veux pas parler pour M. Moisan. Je veux surtout pas parler contre M. Moisan, parce que j'ai trouvé que c'est une personne très sympathique au bout du fil.
Oui, 100%.
C'est un profil artistique. Puis les artistes, c'est vrai, ça veut que tout le monde s'aime, ça veut que tout le monde travaille ensemble. T'sais, j'ai déjà travaillé avec des gens qui ont ce profil-là artistique. Puis dès qu'il y a un conflit, ces gens-là gèlent, ces gens-là veulent se retirer, ces gens-là détestent être en compétition, en conflit. Puis lui, je suis certain qu'il s'est lancé en politique en se disant « Hey, regarde, moi, la piste cyclable, ça n'a pas de sens. Je parle à du monde. Puis là, ben, quand je vais faire mon devoir de citoyen, je vais m'en aller en politique. » Puis finalement, ben, il a frappé le mur de la réalité qui est rendue la politique, une politique très crasse, une politique très sale.
Oui, 100%. Puis les auditeurs ont quand même raison aussi que depuis la pandémie, c'est un phénomène qui a pris une toute autre ampleur.
Oui.
Puis je savais qu'on avait des chiffres sur ça, fait que je les ai ressortis.
Ah, ouais, donc, vas-y donc.
Les actes, en gros, des signalements de propos menaçants ou de menaces faites par des... Les signalements faits par des élus municipaux au service de police à propos de propos menaçants, menaces, etc. En 2019, annuellement, c'était 16. 16 en 2019.
Okay.
C'est fou raide. À grandeur de la province.
À grandeur de la province.
2020, 286.
OK, déjà, ça va augmenter.
2021, 396. Puis par la suite, on a re-eu une baisse. Après la fin de la pandémie, entre guillemets, 2022, 323. Et 2023, 206. Bon, j'ai pas les chiffres de 2024 et 2025 devant nous, mais selon moi, ça doit se situer autour de 250. Mais ça reste que 250,
on est parti de 19,
On est parti de 19 avant la pandémie.
Aïe.
On est parti de 19. On est rendu autour de 200-250 à grandeur de la province. C'est un phénomène inquiétant.
C'est un phénomène très inquiétant. Et je vais continuer de le dire, débattre des idées entre vous sur les médias sociaux, mais arrêtez les commentaires haineux et violents. Arrêtez de vous en prendre à des personnes individuellement. Arrêtez de vous en prendre à l'entourage de ces personnes-là. Ça ne fait pas avancer le débat. Et un bon exemple de débat qui a avancé, c'est ce matin, si vous allez réécouter sur le boulevard.fm, blvd.fm, débat entre Stéphane Lachance et Claude Villeneuve. On a beaucoup plus débattu des idées que des personnes en tant que telles, et j'ai trouvé cet exercice démocratique très intéressant. On fait une dernière pause dans l'émission On en jase le midi sur Boulevard 102.1, et par la suite, on va revenir avec l'essentiel de l'actualité et le sport, parce que Matt, c'est à soir que nos Jays peuvent se rendre en finale de la Ligue américaine en battant les Yankees.
Yes, sir, c'est à soir que ça peut se passer, puis c'est à soir que le hockey de la Ligue nationale de hockey revient.
Recommence également. On parle de tout ça après cette courte pause sur Boulevard 102, l'émission On en jase. Émission en jazz qui tire déjà à sa fin. Et là, mesdames et messieurs, 418-971-1021, parce que j'avais dit qu'on vous gâtait deux fois, ben c'est là qu'on va vous gâter à nouveau. Ça vous dit d'aller voir Offspring, qui sera en spectacle au Centre Bell le 21 février 2026, dans le cadre de sa tournée Supercharge World Wild 2026, avec comme invité spécial Bad Religion. Cette semaine, soyez à l'écoute de Boulevard et vous pourriez gagner votre paire de billets. Les billets seront mis en vente sur evenco.ca dès vendredi 10h. The Offspring en spectacle à Montréal, un choix à ne pas manquer. Mais c'est immédiatement, tu as juste à me texter au 418-971-1021. Smash, parce que c'est mon album préféré de The Offspring. Ça me rappelle mon adolescence. Avec ton nom, et tu te cours la chance de gagner ta paire de billets pour le show de The Offspring au Centre Bell le 21 février 2026. Bon, Mathias, bien beau gâter notre monde, mais à part les gâter, il faut les informer. Qu'est-ce qu'il faut savoir dans l'actualité?
Oui, ben je commence avec Tamara Lynch et Chris Barber, des deux figures majeures du convoi des camionneurs de l'hiver 2022 à Ottawa, qui ont écopé d'une peine d'emprisonnement avec sursis de 18 mois. Donc aujourd'hui au palais de justice, c'est sorti dans les dernières minutes. Donc tous deux devront respecter une série de conditions. Tout d'abord, c'est de ne pas troubler l'ordre public et de se rapporter à un superviseur. Chris Barber devra passer les 12 prochains mois à son domicile avec des sorties limitées avant de pouvoir respecter un couvre-feu pour une durée de 6 mois. Tamara Lynch, elle, a déjà passé 49 jours en prison. Sa peine avec sursis a été réduite à donc 15 mois et demi. Présentement, Mark Carney et Donald Trump sont en rencontre. Oui. On a eu un petit moment, un échange entre les deux chefs d'État devant les journalistes. Bon, c'est devenu conforme à la Maison-Blanche de faire de cette manière-là, de se présenter devant les médias et discuter ensemble. Du côté de Donald Trump, on a dit qu'il serait question de commerce et de la bande de Gaza au cours de la rencontre. Donald Trump a dit que même s'il commence sa rencontre avec plusieurs aspects sur lesquels ils ne sont pas nécessairement d'accord, il n'a aucun doute que Mark Carney sortira très content de cette rencontre. Il a également commenté le trafic de fentanyl en disant que ce n'était pas fini, le trafic de fentanyl du Canada vers les États-Unis. Il y en a encore énormément.
C'est même pas 1%, mais ça prend la sécurité nationale.
Il faut quand même que je dise que le ton de Donald Trump semblait très, très, très gentil.
Oui, très différent.
Il a même terminé en faisant éloge du premier ministre canadien en disant que c'est un très bon premier ministre et que c'était un homme bien. Donc, à voir si ça va se conclure en termes d'entente ou non. Et je termine avec Santé Québec qui est piégé en raison d'une clause dans le contrat avec la firme LGS. Cette fois-ci, c'est dans le projet de numérisation de ces systèmes financiers d'approvisionnement, donc SIFA. En gros, ce que cette clause a dit, c'est que sur le contrat de 405 millions qui lie Santé Québec avec la firme de SGS, contrat qui est étendu sur 15 ans quand même, il y a une clause qui stipule que Québec consent à payer le total des récurrences dès la deuxième année, suivant celle où SGS avait prévu terminer le déploiement complet. Ce que ça veut dire, ça, c'est que le déploiement complet du projet était censé être pour 2026. Okay. Ce qui veut dire que d'ici 2028, en raison de cette clause-là, même si le projet est mis sur pause pour l'instant...
On n'a pas le choix de payer à
totalité. On n'a pas le choix de payer 405 millions en 2028, selon cette clause-là. D'ailleurs, le Parti libéral du Québec... C'est eux qui ont révélé l'information après avoir mis la main sur une partie du contrat qui lie Santé Québec à la firme LGS dénonce complètement cette situation-là.
Oui, c'est le même François Legault qui, en commission Galant, a dit que les libéraux négociaient mal leur contrat et c'est pour ça qu'il a été pris avec des dépassements de coûts avec sa clique.
Oui, puis d'ailleurs, on dit dans le journal, là, c'est une clause de contrat qui est fortement inhabituelle. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, puis en même temps... C'est normal. Du côté du gouvernement Legault, on a dit, hey, vous livrez. Cette clause-là dit, même si LGS livrait le projet 4 ans après, elle stipule que c'est selon la date que le projet était censé être livré. Donc, on aurait payé le projet 2 ans avant qu'il soit livré en cas de 4 ans de retard, par exemple. Je donne un cas fictif. Donc, c'est un peu ridicule de voir qu'une telle clause a été dans ce contrat-là.
Non, François Legault a vraiment bien négocié ce contrat-là. Là. Ça doit être encore de la faute des libéraux, j'imagine. Et hier, dans le football, grosse, mais grosse surprise. With 30 seconds left. Now Lawrence goes down, has to get up.
breaks a tackle, touchdown Jacksonville.
Trevor Lawrence a tombé, s'est relevé, a couru la distance manquante et il a marqué un toucher pour battre les Chiefs de Kansas City 31-28. Les Jaguars qui surprennent tout le monde dans le football, ils ont maintenant un dossier de 4 victoires et 1 revers. Les Chiefs, 2 victoires et 3 revers. On termine le sport avec... Vous venez d'entendre le circuit de Dalton Varsho qui en a frappé 2 dans le dernier match. Donc, Dalton Varsho et les Jays sont à New York ce soir, 20h08, pour le 3e match de cette série 3-5 où les Jays mènent 2-0.
Rapidement, la Ligue nationale de hockey rentre en action ce soir. 3 affrontements au calendrier: Blackhawks, Panthers, Penguins, Rangers et Avalanche Kings. Pour ce qui est du Canadien, ils affronteront les Maple Leafs de Toronto pour leur premier match de la saison demain, 19h.
Félicitations à Steve Garneau qui est notre gagnant des billets pour Offspring le 21 février au Centre Bell. Le retour de Gravel suit à l'instant pour nous. On est de retour en ondes demain à midi. Bye bye la gang. Restez sur les ondes de Boulevard 102 et on se parle demain.
À demain.